Africa.
Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio.
Bonsoir à tous, tout feu tout foot comme tous les lundis à partir de 20h15. Ah là, là il est 20h12 hein, avec toute l'équipe. Bonsoir le doyen.
Bonsoir mon coach, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Hakim Djellouat.
Bonsoir coach Lamine Badiane, un plaisir de te retrouver, de retrouver Christian Chango, Willy Dorkenou et bien sûr Valentin Blanc à la réalisation.
Je fais un coucou mais tout passage. Ça c'est moi qui dois
c'est
le dire.
C'est toi qui dois le dire.
Oh. Je fais un coucou. Il me tue ce gars, c'est pas possible ça.
Non mais parce que c'est un plaisir toujours de vous retrouver le lundi et je fais un coucou également. Coach Lamine, à tous les auditeurs et toutes les auditrices du continent africain qui nous écoutent.
Alors du coup, moi, qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je dis salut Christian Chango ?
Il est là, il est avec nous, Christian Chango.
Bonsoir coach, bonsoir à toute l'équipe, coucou bonsoir. À Valentin à la Réal et coucou à tous les auditeurs.
Ben Valentin, ça fait 6 fois qu'on te nomme, hein. Alors salut.
Ben,
hein.
Merci
beaucoup de réaliser cette émission. Hein. Alors messieurs, ce soir, nous allons tout d'abord aller sur le continent avec quelques nouvelles dignes de débat. Ensuite, football européen avec le tirage au sort de la Ligue des Champions, le calendrier de la Ligue 1 et bien sûr, on parlera de l'Espagne et de l'Angleterre. Ouais, mais but, je ne sais pas où est-ce que Christian Chango peut marquer un but avec le confinement et les deux confinements et surtout les matchs à huis clos. Hein.
Ouais, mais il joue toujours. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Alors, sur le continent, les amis, les nouvelles importantes. Le Cameroun dit non à la Ligue des Champions avec, bien sûr, il ne peut plus l'organiser. On va y revenir. Ensuite, on parlera de la CAN féminine. Le débat est toujours présent. Alors, tout de suite, ce qu'on avait dit, c'est que ce n'était qu'une rumeur. Christian Chango, c'est devenu réalité avec la confirmation de la Fédération Camerounaise de football de ne pas abriter le Final Four de la Ligue des Champions qui devait opposer le Raja de Casablanca aux Zamalek et le Wydad de Casablanca à Al Ahly. Alors, je ne sais pas, tout à l'heure, on va peut-être avoir le sonore de son excellent Seydou Mombo Njoa, patron de la FECA Foot, qui disait tant bien que mal qu'il avait fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil des demi-finales et de la finale de la Ligue des Champions en raison des risques sanitaires liés à la Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution au terme de cette pandémie. Alors qu'il faut reconnaître, doyen Willy, qu'actuellement on parle à peu près de 14 500 cas du côté du Cameroun. Tout à l'heure, comment s'appelle dans le journal des auditeurs et surtout avec notre Stéphanie, amie Stéphanie et puis aussi le doyen.
Oui, mais une compétition au Cameroun ne peut pas laisser la foule indifférente. Donc, c'est un danger.
Ouais, parce qu'on parle de plus de 300 décès quand même. Hein.
Oui, mais en plus de ça, organiser une compétition sportive. Et du foot en plus, au Cameroun, un pays où les gens aiment beaucoup le foot. Ouais. Donc ça risque de faire répandre la pandémie, d'aggraver la pandémie encore. Donc si c'est par rapport à cette situation sanitaire que la fédération a refusé d'organiser ça sur place, je suis d'accord avec eux.
C'est ça, il y a deux raisons en fait. Hein. Il y a deux raisons principales. Bien évidemment, la première, la Covid-19. Et la deuxième aussi qui a été évoquée par le gouvernement camerounais, c'est La raison, surtout, vous savez, à cette saison, ouais. c'est la raison des fortes pluies qui sévissent dans cette période ouais, au niveau du Cameroun. Ouais. Donc ça fait
partie. Mais on le savait au départ. Moi, je comprends pas. On le savait qu'il y avait cette période-là.
Mais répète ça, c'est pas ça. On le savait au départ. Mais tu étais là quand la FIFA, avec leurs amis de la CAF, ont dit qu'il faut jouer la CAN au mois de juin. Ils savaient pas que c'est comme si le fait d'avoir organisé la Coupe du Monde au Qatar, c'est maintenant qu'on sait et qu'il fait chaud au Qatar. C'est la même chose. Alors, mais restons sérieux.
Je cherchais tout à l'heure, c'était bien Francis Laloupo qui avait fait un bon débat concernant un peu la pandémie du côté du Cameroun.
Sur la COVID. Oui,
sur la COVID. Alors, Hakim, une bonne ou une mauvaise décision?
Écoutez, coach Lamine, moi je pense que je ne sais pas si on peut parler de bonnes décisions. Après, je pense qu'ils ont leur raison. Hein. Il faut quand même toutefois rappeler que la CAF, bien sûr, a attribué l'organisation du dernier carré de la Ligue des Champions ainsi que la finale, coach Lamine, au Cameroun. On avait eu la semaine dernière et quelques semaines auparavant, coach Lamine, une discussion intéressante à propos notamment de la proposition du Maroc qui s'était proposé d'accueillir des matchs et des compétitions
ouais.
Par rapport à une lettre qui avait été adressée par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football. Et il n'y a pas eu de suite. Maintenant, je pense que si le Cameroun, coach Lamine, ne souhaite pas effectivement recevoir cette dite fin de compétition, le Final Four, le dernier carré de la Ligue des Champions africaine. Christian l'a bien souligné, il y a effectivement le problème de cette pandémie qui sévit toujours du côté du continent africain où des pays n'ont pas encore atteint leur pic épidémique. Coach Lamine, il est important de dire que la Covid-19 sur le continent, dans certains pays, elle est en hausse. Notamment sur la partie du Maghreb, par exemple, quand on voit en Algérie ou d'autres pays, coach Lamine, c'est très très compliqué. Maintenant, il y a des pays où, au niveau hospitalier, au niveau moyen sanitaire, c'est encore un petit peu, c'est-à-dire difficile, compliqué. Mmh. Et si effectivement on prend ce risque-là d'accueillir une telle compétition d'envergure, qui plus est, qui est la deuxième plus grande compétition du continent africain. Vous le savez, coach Lamine, après la Coupe d'Afrique des Nations, le risque, bien sûr, il va être de multiplier le nombre de cas.
Ouais, ouais.
Et c'est là où je rejoins effectivement le choix du président de la Fédération camerounaise de football de dire non, nous ne souhaitons pas accueillir ce Final Four.
Alors, ok, d'accord. On va d'ailleurs l'écouter hein, si l'élément est prêt du côté de la technique. C'est parti.
Vendredi 10 juillet 2020, j'ai, en ma qualité de président de la Fédération camerounaise de football, saisi la CAF en réponse à l'offre faite au mois de mai par l'instance fêtière du football africain pour l'organisation en Final Four de la Champions League édition 2020 au stade de Japoma à Douala. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des demi-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Alors,
voilà, je vous ai dit que c'était très court.
Oui, c'était court. Voilà. C'était vraiment okay.
Court et efficace.
En tout cas, Seydou Mbomba Dia. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire, court et efficace. Est-ce que, Doyen Willy, ouais. Ce n'est pas du courage que de la part de la Fédération camerounaise de football de se mouiller tout de suite et de dire non, nous n'organisons pas? Ça, ouais. c'est une possibilité aussi. Et puis, derrière tout ça, ouais. Rappelez-vous, notre auditeur nous avait dit, ouais. Le Cameroun est-il réellement prêt? Est-ce que ça aussi, ça ne cache pas le fait que le Cameroun, disons-nous la vérité, et ça, on l'a encore écouté tout à l'heure dans l'émission de Francis, où le correspondant avait dit « Soyons vraiment humbles et disons la vérité, le Cameroun n'est pas prêt ». Alors 0155 07 58 00, je vous rappelle que vous écoutez tout foot sur le 107.5.
Mais c'est normal que tu touches.
107.5 FM, effectivement, avec le coach Lamine. Le temps de prendre un petit verre d'eau. Avec le doyen Willy Dorkenou, avec Christian Chango, bien sûr, dans le plateau, donc du côté de Paris, avec également à la réalisation Valentin Blanc. Coach Lamine, je pense que l'instance fêtière, elle s'est exprimée, elle a eu son mot à dire. Mais on a également des auditeurs, peut-être, qui peuvent s'exprimer au 01 55 07 58 00. Depuis l'international, 00 33 1 55 07 58 00. Au sujet justement du désistement du Cameroun de ne pas recevoir effectivement ce Final Four de la Ligue des Champions africaine.
Merci Hakim, merci. Je rassure tout le monde, c'est pas le coronavirus.
C'est pas le Covid-19.
Ouais, mais on a lancé le débat, mais le problème qui se pose, c'est que le président de la fédération vient de dire que c'est une mesure sanitaire. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas prêts. Donc moi, je n'ai aucune intention à prêter au Cameroun. Je sais que le stade est là, ils sont prêts, mais vu la pandémie, ils ne veulent pas organiser quelque chose pour aggraver la situation.
Ouais, le stade de Papoma est...
Oui, je sais, j'ai vu.
Est-ce que le Cameroun est prêt
à s'agir? Et justement, ce que l'auditeur nous avait dit la semaine dernière sur le fait que, et peut-être que finalement le report était dû aussi au fait que le Cameroun n'était pas prêt. La raison principale, et oui, il a bien raison de le souligner, évidemment, c'est la Covid. Mais après, par exemple, là, quand on prend en compte l'organisation là, du Final Four qui doit avoir lieu en septembre, quand le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, annonce que ça va jouer du côté du Cameroun, les Camerounais donc, ont dû être prévenus. Je pense que c'est pas... Il leur a dit... il a fait l'annonce sans les prévenir. Donc là, on peut se poser la question que l'auditeur avait justement posée et que tu remets sur le tapis. Quoi. Mm-hmm. Est-ce que peut-être derrière ça, il n'y a pas de fumée sans feu, les gars.
Ben, cool, un peu de cachotterie. Voilà, c'est possible. Aussi.
Après, c'est une hypothèse. On ne dit pas ça, encore une fois, aux auditeurs. On ne dit pas que c'est la raison. Mais la question, elle est légitime. Et c'est vrai que... à cette époque de l'année, on le sait très bien, et Willy en a parlé tout à l'heure, on sait très bien que sur certaines régions de l'Afrique, de juin à septembre, octobre, on sait que ça tombe des cordes. Donc, est-ce qu'on ne nous cache pas des choses? C'est la question. La question, elle est légitime.
Si on est prêt à jouer au water polo, oui.
Oui, non, mais attends, de toute façon, on va aller du côté du standard. Monsieur Peter, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pensez que le Cameroun cache quelque chose? La Fédération camerounaise de football cache quelque chose? Ou bien peut-être elle est courageuse de prendre déjà, avant septembre, la décision de dire non, nous, on n'organisera pas. Et puis après, on viendra qui pour remplacer le Cameroun, bien sûr. On vous écoute. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Je suis un Camerounais de côté anglophone. J'ai vu que le Cameroun, c'est la honte parce qu'eux ne peuvent pas. C'est un champion. Le Cameroun, c'est un pays qui a produit beaucoup de grands noms de football africain.
Champion d'Afrique 2017.
Exactement. La situation politique du Cameroun, il y a certaines personnes qui ont pris ce pays-là en otage. On ne peut pas mélanger le football avec les politiques.
Ben oui, mais bon, donc, ça par contre...
Ouais, pour cette situation-là, au niveau de la CAN, ils vont cacher maintenant la CAN, la CAF est en train de faire un bonus pour le Cameroun à cause de Covid-19. Mais le Cameroun n'est pas prêt parce que même le route, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de sécurité au Cameroun. Il n'y a rien au Cameroun.
Ça fait combien de temps vous êtes allé au Cameroun, vous, M. Peter?
Je viens de rentrer au Cameroun il y a 2017.
À 2017, d'accord.
Ouais,
ça fait deux ans quand même, depuis trois ans. Hein.
Ouais, je sais, mais j'ai de la famille au Cameroun.
Ah bon?
Donc, on a de WhatsApp, on a des vidéos où on peut appeler pour voir comment les gens en train de souffrir pour déplacer à une région à une autre. Okay. Une sécurité, des problèmes anglophones. Ouais. Et il y a des problèmes de Covid, de patients ne peuvent pas rester à l'hôpital. On tue des gens à l'hôpital pour prendre les organes que c'est de Covid. Cet pays n'est pas stable. Il y a beaucoup de choses que le Cameroun n'a pas fait. Si, pour les Africains qui aiment le football, il faut qu'on puisse le Cameroun maintenant. Peut-être dans 15 ans, le Cameroun peut organiser ça.
Oh, non, même pas. Nous, on aime le Cameroun, non?
Non, mais je ne
Peter,
pas,
Peter,
je
non, pas, quand même pas.
Si vous aimez le Cameroun, si vous, vous aimez le Cameroun, vous dites la vérité. Le Cameroun n'est pas prêt.
Ok.
Situation ouais. du Covid. Pourquoi ils n'ont pas organisé ça en 2019? Ok, on vous a donné un bonus encore de 2 ans.
Oui, c'est ça.
2021, vous ne pouvez plus encore. Vous dites que c'est le Covid. Rien, rien.
Bon.
Ce n'est pas ça. Le Cameroun n'est pas prêt. Le Cameroun n'est pas prêt. Okay, c'est la honte.
D'accord.
Comme Samuel Eto'o, qui pouvait parler des choses comme ça, ils se mettent dans le politique. Roger Miller dans le politique. Antoine Bia dans le politique. Ce n'est pas ça, c'est la honte.
D'accord. La honte on a bien compris.
Défendre le Cameroun.
On a bien compris. On a
Merci
bien compris. Merci beaucoup, Peter, d'être venu sur la radio africaine. Je
Thank
rappelle.
You, Abra.
0155 07 58 00. Si vous voulez intervenir sur, bien sûr, ce qu'on est en train de poser comme problème aujourd'hui, Peter, lui, a été catégorique. Le Cameroun n'est pas prêt du tout.
Ouais.
Parce que, rappelez-vous, encore une fois, la CAF va être devant un dilemme. Qui va organiser le Final Four de la Ligue des Champions?
Ouais,
et je rappelle que cette Ligue des Champions oppose le Raja de Casablanca au Zamalek, le Wydad de Casablanca contre Al Ahly. Alors, qui pour remplacer Christian Shango, le Cameroun? Est-ce que vous avez des pistes?
On a des pistes hein, et des tuyaux. Bah, écoutez, la semaine dernière, on parlait de la Coupe de la CAF et on disait qu'elle devait s'organiser, se tenir du côté du Maroc pour le Final Four.
Oui, mais là, Hakim vient de dire oui. Il faut les donner au Maroc. Le Maroc, c'est fini,
terminé. Non, on n'a pas dit ça.
Mais pour la Ligue des Champions, on est déjà au courant que l'Égypte a proposé ses services, hein, puisqu'ils ont les infrastructures nécessaires.
Le Maroc a refusé.
Vu que. Vous avez les infos, d'accord, je n'étais pas au courant de
ouais,
ça.
Ouais, le Maroc a refusé.
Le Maroc a refusé, exactement. Mais pour la Ligue
Parce que le Maroc, excusez-moi, le Maroc dit il faudrait qu'on joue ce Final Four.
Terrain neutre.
Terrain neutre.
Ouais, exact.
Mais pour la Coupe
de la CAF, tout à fait.
Coupe de la CAF.
Mais du coup, là, dans les potentielles équipes pays qui sont proposées, donc, il y a l'Égypte. L'Égypte hein, qui s'est proposée.
Mm-hmm.
Après, le problème majeur, on sait que, comme tu l'as dit, coach, Zamalek et Al Ahly sont présents dans ce Final Four. Donc, est-ce qu'ils seront avantagés si ça se joue du côté de l'Égypte? En tout cas, l'Égypte s'est proposée comme solution de repli. Et juste par rapport à ce que disait notre auditeur, on avait reçu il y a quelques semaines, il y a quelques mois, autre que Dipita, qui est journaliste camerounais, on avait reçu des collègues sur le plateau qui étaient journalistes du côté du Cameroun et qui nous parlaient aussi déjà de la situation et qu'il y avait un endroit en partie dans le pays où c'était compliqué de pouvoir organiser la compétition. Donc
alors,
pour rejoindre un peu ce que notre auditeur disait, on sait qu'il y a des endroits, il y a une zone surtout au Cameroun, une zone qui est un peu, entre guillemets, une zone à risque et où c'est compliqué actuellement. Le football, c'est dérisoire hein, comparé à ce qui se passe là-bas. Donc voilà, c'était pour aller dans le sens de notre auditeur, Peter, qu'on a eu juste avant.
Alors, Peter, moi, en tout cas, je peux confirmer certaines choses par rapport à Peter. Effectivement, j'étais au Cameroun il y a quoi, 4 mois?
Ouais.
4 mois.
Hein. Ouais.
C'était au mois de novembre, je crois. Février? On est en quoi?
On est en juillet.
Vers février, oui. J'étais au mois de février, début mars. Du côté du Cameroun, effectivement, il y a quelques petits soucis. Bon, mais moi, je suis neutre, hein, je ne parlerai pas. Alors, Égypte, oui, mais c'est la presse égyptienne aussi qui fait le forcing pour pouvoir favoriser les clubs locaux.
Ouais.
Mais et qu'est-ce que vous pensez, parce que ça a été donné...
Le golf comme, aussi. Hein.
Oui, aux Émirats Arabes Unis, doyen Willy.
Oui, mais ça fait longtemps qu'ils voulaient organiser ça là-bas parce que ça rapporte un peu de sous. Mais c'est tout, c'est pas nouveau.
Ça va t'énerver, ça, William. Ça
non, ça ne m'énerve pas parce qu'ils vont y aller parce qu'ils voulaient y aller.
On a vu, déjà, ils ont organisé ils avaient délocalisé la finale de la Super Coupe d'Afrique hein, entre le vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF, qui s'était tenue du côté du Qatar, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Donc, effectivement, c'est une solution de repli. Après, moi, comme je vais redonner le même argument que j'avais dit quand on avait fait la finale de la Super Coupe, c'est bien de délocaliser, hein, ça rapporte de l'argent pour les clubs, pour la CAF, mais c'est une compétition africaine, elle doit
rester
tenir
sur le continent.
Ils vont profiter de la Covid, le dollar, tout le monde met tout sous la Covid.
Évidemment, mais voilà, c'est une compétition africaine, ça me ferait quand même mal que la Ligue des Champions se joue à l'étranger.
Alors,
voilà.
je vais peut-être donner une autre information, celle de l'ami de notre ami Hakim.
Ouais.
Oui.
Le président Ahmad Ahmad. Ouais.
Monsieur le président.
Monsieur le président, bonsoir. Lui voudrait que ça se joue au Rwanda. mais le président Kagame a dit niet, bien sûr.
Oui, ouais, c'est effectivement, bon, je pense qu'il y a, il y a matière à discuter et à échanger autour de cette question. Pourquoi Lamine ? Parce que si effectivement on ne trouve pas de solution de repli, forcément on va essayer de proposer à des pays qui n'ont peu ou pas accueilli déjà des compétitions telles que celle-ci. Mais on le sait, c'est le risque en fait que fait porter la CAF à proposer en fait à des pays qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'organiser déjà des compétitions d'envergure continentale. C'est effectivement le risque, on le redit et on se répète, de propager cette épidémie. Et le problème, Lamine, c'est que le Rwanda, on le sait hein, déjà en termes de... C'est-à-dire au niveau footballistique, bien sûr, hein, ils sont présents sur la scène continentale et footballistiquement, ils montent en puissance petit à petit. Mais au niveau organisationnel, ça reste encore un petit peu compliqué, difficile, et même également au niveau infrastructure sanitaire. C'est vrai que c'est
ils compliqué. Ils en ont moins quand même. Attention.
Ils en ont beaucoup moins. Beaucoup, et là, quand on voit effectivement le risque encouru pour l'organisation d'un Final Four comme celui-ci, on le sait, c'est des risques à prendre qui sont élevés.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Rwanda, vous savez comment l'information que j'ai concernant le Rwanda quand il s'agit de lutter contre le Covid.
La Covid.
La Covid. On s'en fout alors que ce soit là ou là, mais en fait, c'est Covid.
Ça tue quand même, donc.
Bah, écoutez, premièrement, il y a un couvre-feu. On vous prend au niveau du couvre-feu, on vous ramène dans le stade, le grand stade de football. Mmh.
Ouais.
Vous restez vous passez la nuit dans le stade. N'est-ce pas? Et vous êtes bombardé par des messages toute la nuit.
Ouais.
Porter des mains, porter des gants, porter les distanciations sociales. On vous relâche au petit matin, on vous reprend un autre jour, on vous refait la même chose, toujours au stade, ils sont enfermés au stade. Et la troisième fois-ci, on vous prend et cette fois-ci, vous avez une amende. En tout cas, je pense que c'est une bonne décision du côté du Rwanda pour lutter contre le truc. On va prendre Mama Gouz avant de continuer sur le deuxième débat concernant maintenant la CAN féminine qui a été, je le rappelle, au niveau de la Confédération africaine de football, purement et simplement annulée. Madame, bonsoir.
Bonsoir, assistant. Moi, je supporte mon pays, le Cameroun, déjà. Je veux dire que c'est l'Afrique.
Oui.
Et puis, je sais que ces gens-là, ils sont bien, ils sont compétents déjà. Mmh. Oui.
Oui.
Je les supporte. Je sais qu'ils peuvent aller. Sinon, qui? On a qui encore? Moi, pour moi, hein?
Oui.
Moi, c'est le Cameroun que je vois.
Mmh. Pour organiser? Pour quoi faire? Qu'est-ce que vous voulez dire, Madame Gouz?
Je veux dire par là que... on a regardé quand même ce qui s'est passé. Hein? On connaît nos parents. On connaît nos fistons.
Oui.
On connaît leur jeu. Mmh. Mais là, moi, pour moi, c'est le Cameroun.
D'accord. Vous supportez le Cameroun?
Oui.
Mais Madame Gouz, nous, on est en train de parler de l'organisation de la Ligue des Champions au Cameroun. D'accord? Ce qui s'est passé, c'est que la Fédération Camerounaise de football, parce qu'il n'y a pas d'équipe camerounaise hein, dans ce qui va se passer, on voulait, la CAF voulait organiser un tournoi au Cameroun à Japoma, à Yaoundé, mais malheureusement, la fédération a dit non, on ne peut pas organiser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cas de Covid.
De problèmes, voilà.
Ouais. C'est de ça dont on parle, pour dire est-ce que la fédération a bien fait ou la fédération a mal fait.
C'est la fédération qui voit, si elle voit que y a cette maladie et que le Cameroun ne peut pas partir, bon, on n'a pas de choix, hein.
Mm-hmm.
On n'a pas de choix. Bon, sinon, moi, c'était le Cameroun que je vois. Hein, parce que on voit quand même à la télé le jeu des gens.
Mmh, oui.
Donc, pour moi, c'était le Cameroun. Bon, ben, comme il y a une question de voir, on va faire autre chose. Hein.
D'accord. En tout cas, on a bien compris. Merci pour votre soutien au Cameroun.
Merci, Maman Gouz.
Merci.
Merci beaucoup. Vous restez toujours à l'antenne. Merci beaucoup. Messieurs, un jingle et puis on passe à la CAN féminine.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.
Messieurs, donc nous en parlions la semaine dernière, la CAF a purement et simplement annulé la CAN féminine. Alors il y a eu une levée de boucliers, etc. C'était prévu je le rappelle, en novembre-décembre au Congo-Brazzaville. Celui-ci a renoncé à l'organiser face à la difficulté de trouver un pays. Ah, donc la CAF avait fait un croix sur la compétition. Christian Chango, alors est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, cette CAN féminine? Parce que là, actuellement, personne n'est content, même la FIFA.
Oui, bien sûr, coach. On avait déjà amorcé le débat la semaine dernière suite à la décision prise par la CAF qui a choisi d'annuler cette compétition. Je le disais la semaine dernière, hein, déjà, ça faisait plusieurs mois que les filles n'avaient pas pu jouer ni se réunir, même pour se retrouver avec la sélection. Et malheureusement, pour le foot féminin, comme je vous disais la semaine dernière, le football féminin en Afrique par rapport à l'Europe ou aux US ou même en Asie, on a une dizaine d'années de retard. C'est encore tout neuf, tout frais chez nous. Et pour permettre au foot de grandir, il faut qu'il y ait des compétitions. Willy le dit souvent, si on ne joue pas, on ne progresse pas. Et il n'y a que la compétition qui fait progresser les joueuses. Pour les meilleures joueuses de notre continent, elles sont du côté de l'Europe, notamment de la Suède ou de Barcelone. Pour les meilleures joueuses, notamment nigériennes et camerounaises, il y en a quelques-unes aux États-Unis. Mais pour celles qui sont sur le continent, c'est compliqué. Pour les clubs, déjà, les infrastructures sont limitées. Et en plus, pour le football féminin, c'est compliqué de s'exprimer en football de club, hein, je parle, sur le continent. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis à la place la Ligue des Champions. Mais rien ne remplace une CAN. La CAN, ça donne de la visibilité, ça permet aux joueuses de se montrer, de se réunir, de jauger, puisqu'il y a des matchs qui sont organisés derrière, des matchs amicaux. Après, il y a des championnats comme la Coupe du Monde. On a vu l'engouement qu'a eu, on l'a vu ici, nous, en France, l'an dernier, la Coupe du Monde féminine. Nos équipes africaines étaient là. Elles sont au début. Elles prennent plus des valises de 10-12-0. Elles n'en prennent plus que 4 ou 5 pour les meilleurs. Mais il faut passer par là pour progresser. Et malheureusement, le fait que la CAN soit annulée, bah, ça ralentit encore la progression du foot féminin. Et on recule encore, on repère du temps. Le peu qu'on avait gagné déjà, bah, là, il est anéanti malheureusement. Après, il y a des conditions qui font que la compétition n'a pas pu se tenir. Mais encore une fois, là, on se met du retard. Et il y a du football du côté des femmes aussi sur notre continent. Et c'est malheureusement dommage qu'elle n'ait pas la possibilité de jouer. On voit d'ailleurs pour la Coupe du Monde féminine que depuis déjà 2 ans maintenant, ils parlent de la mettre tous les 2 ans parce que ça permet aux équipes de progresser, aux pays de faire progresser leurs joueurs. Leurs joueuses. Donc, le fait que ce soit annulé, c'est quand même compliqué. On a vu du côté de la FIFA, il y a eu une réaction à ce niveau-là.
C'est ça. Ouais. Justement, la FIFA a dit, le football féminin, ça c'est, je le nomme, hein, c'est Infantino, le football féminin est une priorité absolue pour la FIFA. Nous ne devons pas utiliser le coronavirus pour mettre de côté le football féminin. Au contraire, nous devons continuer à aider le football féminin car il a un bel avenir. Et puis, Samoura, qui est Fatma Samoura, la Sénégalaise, qui est secrétaire générale, elle s'est montrée encore plus claire. La CAN féminine 2020 a été annulée tout simplement parce qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde en 2021, parce que ça aussi, c'était un argument de la CAF, et qu'il y en aura une en 2023. Ça veut dire qu'entre 2019 et 2023, les filles qui ont fait leur preuve en France l'année dernière n'auront que la possibilité de jouer des qualifications en 4 ans. Mais que ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un pays africain puisse se permettre le rêve de remporter une Coupe du Monde avec ce genre de management? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, Hakim.
Moi je suis du même avis que Fatma Samoura, la secrétaire générale de la FIFA, que j'avais rencontrée du côté de Rabat Salé et Coach Lamine il y a 3 mois et demi. Je pense que si elle sort de ses gonds comme ça et qu'elle s'agace effectivement de cette mauvaise nouvelle, hein, triste nouvelle pour le football féminin d'une manière générale, parce que là c'est toute la planète qui est touchée, si on le comprend bien, puisque la Coupe du Monde 2021, donc on peut mettre une croix dessus, ça ne se jouera pas. Je pense que elle a raison de s'énerver, Coach Lamine, et d'être agacé, parce que on a l'impression qu'on essaye d'utiliser le prétexte du virus pour pouvoir mettre de côté le sport féminin, pour mettre de côté le football féminin. On a l'impression qu'on utilise la présence du virus pour dire on ne peut pas organiser cette Coupe d'Afrique parce qu'il y a le virus. Alors que moi, je pense qu'avec un management et une organisation
à l'avance pour les féminines. Je parle du côté du continent africain, ça aurait pu être organisé, puisqu'en plus, c'était en, ils avaient le temps.
Oui, puisqu'il y avait la possibilité, du Nigeria et de la Guinée équatoriale qui voulaient organiser. Hein.
Tout à fait, et du Congo-Brazza aussi qui voulait.
Mais le Congo.
Ils ont refusé.
Non, le Congo, c'était fini, c'est eux qui ont renoncé. Hein. Ouais. Ils ont l'habitude de renoncer.
Moi, je pense qu'elle est, dans son droit et je pense que c'est important de mettre un coup de. Voilà, un coup fort sur la table en disant c'est pas possible. Parce que là, les femmes vont attendre encore quelques années pour pouvoir prétendre à une qualification et aussi, pourquoi pas, prétendre à se positionner correctement dans une Coupe du Monde féminine et pourquoi pas même remporter une CAN, une Coupe du Monde.
Ben oui, bon, ça,
c'est pas possible. Mais c'est possible parce que quand on voit les pays européens comme l'Angleterre et l'Allemagne et compagnie, ils ont commencé leur football et féminin au niveau des années 20, il y a déjà des clubs. Donc les Africains, moi, quand j'ai quitté l'Afrique dans les années 80, il n'y a même pas de compétition féminine. Mmh. Donc tu vois la progression de notre football féminin, c'est énorme. J'ai vu les Nigérianes en face des Allemandes qui jouaient depuis longtemps au football féminin, moi j'ai été vraiment impressionné. Mais si on arrive maintenant à banaliser, parce que ce que moi je trouve, essayer d'annuler facilement une compétition comme ça, s'agissant de football féminin, mais c'est une erreur très très grave, parce que c'est la fréquence des compétitions qui fait qu'on progresse.
Alors, il y avait une chose aussi quand même qui est exceptionnelle, c'est que c'est cette prochaine CAN qui était prévue, elle devait être à 12 au lieu de 8, parce que jusqu'à présent, c'était à 8.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y avait un engouement, il y avait au moins 36 pays qui devaient qui devait faire les éliminatoires et on s'est retrouvé avec, bien sûr, une annulation pure et simple. Je crois que c'est tout à fait dommage.
Oui, moi j'ai vu une compétition où la Côte d'Ivoire avait pris une valise dès le début et comme par hasard, le meilleur but de la compétition était marqué par une Ivoirienne. Mm-hmm. Donc laissons nos filles progresser au lieu de prendre des décisions dans les bureaux et par des gens qui n'ont aucune idée sur le sport.
C'est ça que je sais plus, pour aller dans le sens de ce qui se dit là autour de la table. On le sait, il y a la Coupe du Monde tous les 4 ans. Et entre la Coupe du Monde, tous les 2 ans, il doit y avoir une compétition, que ce soit pour le football masculin ou féminin. Mmh. Et malheureusement, concrètement, pour les filles, c'est inimaginable. Et Fatma Samoura a totalement raison. On se retrouve dans une situation où, tu l'as dit, coach, pendant 4 ans quasiment, donc elles vont pas se rencontrer. Il y aura pas de sélection, pas de possibilité de se jauger, de voir où on en est, de progresser en équipe, puisque individuellement, celles qui jouent dans les clubs vont pouvoir progresser. Mais en équipe, il n'y a rien qui va se construire. Et on va se retrouver à aller à la Coupe du Monde, parce qu'on va jouer des éliminatoires, à quel niveau, à quel état de forme on va être, comment les sélections, comment vont être se former les staffs et tout ça. Donc malheureusement, ce choix d'annuler la compétition due en raison principale à la Covid-19, c'est dommageable. Pour le foot africain, pour le foot féminin et encore une fois pour l'image qui est renvoyée du football africain. C'est dommage dans sa globalité. C'est une décision difficile à prendre mais qui va engendrer beaucoup, beaucoup de soucis et on le voit déjà.
Alors justement, pour peut-être vous communiquer un peu les raisons pour lesquelles la Confédération africaine de football a annulé, c'est qu'il y a, quand même la dame qui s'occupe du football féminin au niveau de la CAF, c'est la présidente de la Fédération Sierra Leonaise de football qui d'abord a évoqué le désistement du pays organisateur initialement prévu, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, en juillet 2019. Donc il a fallu trouver un nouveau pays pour accueillir cette CAN qui devait réunir pour la première fois 12 équipes. Donc on a parlé de la Guinée équatoriale et du Nigeria. Mais le souci, comme elle le dit, et je la cite toujours, c'est qu'aucun de ces deux pays n'a donné une lettre officielle de renforcement par rapport à l'État. C'est-à-dire que l'État vient toujours
en
soutien. Et aucun des deux pays ne l'avait donné. Donc, il était complètement difficile de subvenir à ce genre d'accord-là. Et puis ensuite, il y a eu ce problème de coronavirus.
Oui, mais il y a plusieurs raisons. On ne peut pas refuser quelque chose avec des raisons. Plus il y a de raisons, plus ce n'est pas sérieux.
Ben oui, mais moi, j'ai quand même une question à vous poser, vous tous. Vous êtes toujours là en train de nous dire que la Confédération africaine de football, elle est dictée toujours par la FIFA. Et aujourd'hui, que la CAF prend la décision d'annuler, vous n'êtes pas content.
annulée. Donc, avec, par rapport à quelle raison? C'est ça, il y a,
non,
y a des compétitions masculines.
Elle a pris sa décision.
Oui, mais
en
il y a des compétitions masculines sur le continent.
Non, mais je parle de cette Coupe d'Afrique féminine où la CAF a dit « je ne fais pas ».
Mais pourquoi donc, la CAF décide de faire des compétitions masculines et annule les compétitions féminines? C'est ça qui...
Ouais, il a raison, Willy. Il a raison, Willy, coach Lamine. Et je le rejoins dans son coup de gueule parce que à l'image de la secrétaire générale de la FIFA, coach Lamine, Fatma Samoura, moi je pense que... Il n'y a pas de raison, c'est-à-dire de proposer des choix d'organisation de Final Four de Ligue des Champions et derrière d'annuler des compétitions féminines.
Mais c'est ça un veut projet, dire quoi,
ça
le
veut
Final
dire,
Four.
Ça veut, dire, ça, veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on met de côté, clairement, on met de côté le football féminin et ce n'est pas la priorité du sport, donc du côté du continent africain. Je trouve ça vraiment désolant et catastrophique pour le football féminin.
Alors, en tout cas, la dame qui s'appelle Isha Johansson, ouais. Le football féminin en Afrique rebondira avec style et sera encore plus fort. Il ne peut que s'améliorer. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord. Je le vois, ça. C'est ce qu'elle dit. Mais le problème, et pour résumer la situation, c'est que le football féminin, pour l'instant, génère moins de sous. Et ça n'intéresse personne pour l'instant.
On y vient, Willy, exactement.
C'est voilà. Clair.
Merci, je suis content que ce soit toi qui le dise en plus, Willy, parce que le nerf de la guerre, ça restera ça encore une fois. Si,
il n'est pas banquier, lui.
Non, mais justement, je sais, Willy, et la finance footballistique, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que le terrain qui l'intéresse.
Moi, c'est le jeu que je connais.
Voilà, mais je sais qu'il a d'un coin de l'œil, il regarde quand même, il sait qu'on est obligé d'en parler, et c'est la vérité. Si ça... S'il y avait plus d'enjeux financiers dessus, c'est terrible à dire, hein, mais ça fait partie des raisons. S'il y avait plus d'enjeux financiers, il y avait plus de manque à gagner pour certains, peut-être que la décision aurait été différente. Et encore une fois, si on ne peut pas jouer, s'il n'y a pas de compétition, comment voulez-vous faire grandir l'intérêt pour des investisseurs, des sponsors? Puisque sans ça, malheureusement, on ne peut pas aussi... Ça fait partie intégrante de ce qui permet au football... d'évoluer, surtout au football de nom de continent, et on le voit très bien avec nos compétitions Ligue des Champions, Coupe de la CAF, le CHAN, la Ligue des Champions féminine qui va arriver. Pareil, si on n'a pas d'investissement, si on n'a pas aussi un produit d'appel qui en jette, qui est clinquant, qui est organisé, malheureusement, derrière, il y a un manque à gagner terrible, et pour les joueuses, les supporters, et aussi pour ceux qui financent ce sport.
Ben aujourd'hui, est-ce qu'on pense que réellement le football féminin ne rapporte rien du tout? Il y a les sponsors. Parce que quand les sponsors ils sont là, je pense, hein, à mon avis, c'est un tir groupé.
Lamine, par rapport aux médias et ce que peut générer en fait, des compétitions qui sont diffusées à travers différents groupes audiovisuels sur le continent africain ou à travers le monde, que ce soit du côté des Amériques qui s'intéressent, hein, au football africain et à la CAN et à d'autres compétitions africaines. Moi, je pense que, comme le dit Christian, c'est-à-dire si ces groupes de médias s'intéresseraient plus à ces compétitions africaines, à ces types de sports, pour pouvoir justement les diffuser, bien forcément on aurait un petit peu plus de gains financièrement, on aurait un peu plus de visibilité sur ces disciplines. Après, comme le dit Willy aussi, c'est-à-dire le football progresse dans le bon sens, mais le problème c'est aussi comment générer effectivement des sous avec ces médias et comment attirer ces médias pour pouvoir justement promouvoir ces sports-là.
Oui, la question est que, et pour attirer les sponsors, il faut plaire aux sponsors. Moins on est sérieux, moins on plaît aux sponsors.
Mais est-ce que la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée ici...
Ça a cartonné.
Ça a cartonné, mais sur le continent, on parle du continent. Sur le continent, si ce n'est pas organisé, et on prend des décisions assez dangereuses, comme annuler à chaque fois qu'on veut, on ne peut pas plaire aux sponsors. C'est ce que je suis en train de dire.
C'est vrai, parce que coach Willy a raison, et aussi toi tu as raison, coach, sur la Coupe du Monde. Et je voulais le prendre en exemple, et on l'a vu, la Coupe du Monde féminine, la dernière en France, en termes d'enjeux financiers, ça a été une réussite totale. Les stades étaient pleins, le programme, le niveau a progressé, il faut le dire aussi. Nous, on suit le foot, on suit tous les footballs, des pupilles, des cadets, comme dirait le coach, jusqu'aux vétérans. Et partout où ça se joue. Et on a vu sur la Coupe du Monde féminine, il y a des matchs où on a pris du plaisir. Nous qui sommes des amateurs de foot en général, on a pris du plaisir. Ça joue, il n'y a pas de temps mort, il y a moins de simulation, il y a plus de temps de jeu effectif. Et ça a été une réussite totale. Après, le fait que ce soit organisé en France avec des stades, avec des infrastructures qui ont permis, là les filles le disaient, je disais des interviews, des joueuses, la joueuse du Nigeria qui évolue du côté de Barcelone, elle le disait, je me suis retrouvé au stade à Lyon à jouer devant 60 000 personnes avec mon pays, vous vous rendez compte la fierté que c'est pour moi qui sort d'un quartier paumé de Lagos au Nigeria, je me suis retrouvé devant 60 000 personnes avec mon pays en Mondiovision, donc ouais. On se rend compte quand même de l'impact qu'a une compétition comme la Coupe du Monde, comme la CAN, comme l'Euro, comme la Copa América féminine aussi. Ouais. Donc ces compétitions ont de l'importance.
Il y a des informations intéressantes qu'on vient de trouver, coach Lamine. Mm-hmm. C'est à propos des Africains qui sont adeptes de la télévision. Il y a une étude qui a été faite notamment par effectivement si on peut le dire ainsi, c'est un peu comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais du côté du côté du continent africain. Et ils expliquent justement à travers cette étude qui avait été menée en fin d'année 2018 qu'il y a un renouveau du paysage audiovisuel du côté du continent africain, coach Lamine. Mmh. Et il semblerait que on s'intéresse de plus en plus au sport féminin, mais qu'il n'y ait pas encore assez de compétition justement à pouvoir mettre en avant, à pouvoir promouvoir à travers la télévision. Mmh. Et il faut le savoir, que ce soit du côté de l'Afrique du Sud, zone Afrique du Sud ou l'Afrique de l'Ouest ou la zone Maghreb, eh bien partout l'augmentation, coach Lamine, de la connexion à la télévision journalière, donc augmente, ne cesse d'augmenter. Maintenant, comme le disait Willy, comme le soulignait à juste titre Christian et toi, coach Lamine, il faut effectivement pouvoir intéresser les médias à travers nos compétitions et en étant sérieux, c'est-à-dire sur l'organisation, sur la planification, mais notamment aussi sur la qualité des compétitions qui seront organisées.
Ah oui. En tout cas, on verra bien avec ce qui va se passer. Et les Ligues des Champions, avec la Ligue des Champions féminines qui est en train de se mettre en place du côté de la Confédération africaine de football.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.
Messieurs, nous allons, Christian Chango, nous intéresser maintenant à la Ligue des Champions. Ah oui, c'est la pub. Allez, c'est parti.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.
Sur Africa Radio, Paris 107.5, Abidjan 91.1, Brazzaville 94.5. Et puis bien sûr, si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas, un seul numéro de téléphone, 01 55 07 58 00. Messieurs, nous allons attaquer donc le football européen, mais cette fois-ci avec la Ligue des Champions. Christian Chango, il y a eu ce qu'on appelle un tirage au sort de la Ligue des Champions européenne, avec deux clubs qui nous intéressent au plus fort, bien sûr, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Christian Chango. Ah, il nous entend.
Coach, si je vous entends, j'ai oublié d'ouvrir mon micro, désolé. Alors, le tirage au sort, donc, il a eu lieu vendredi, donc on connaît enfin le Final 8, donc le tirage au sort des quarts de finale, demi-finale et la finale qui arrivera, bien sûr, ont été donnés. Donc pour l'instant, avant la pandémie de la Covid-19, quatre équipes étaient déjà qualifiées. Atalanta Bergame en Italie, l'Atlético de Madrid, Leipzig, le Red Bull Leipzig et le Paris Saint-Germain. Et il restait encore quatre matchs à jouer. Real Madrid-Manchester City, Lyon-Juventus, Naples-Barcelone et Chelsea face au Bayern Munich. Mmh. Donc le tirage au sort a eu lieu. Quart de finale, Leipzig face à l'Atlético Madrid, Atalanta-Bergame face au Paris Saint-Germain et ensuite le vainqueur du Real Madrid face à Manchester City sera opposé à Lyon ou à la Juventus et le vainqueur de Naples-Barcelone sera opposé au vainqueur du match Chelsea-Bayern Munich. Voilà pour les quarts de finale. Et après, les demi-finales s'enchaîneront. Paris ou Bergame face à Leipzig ou l'Atlético et les autres qui se rencontreront.
Alors, doyen, je fais un tour de table. Que pensez-vous du tirage? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des boules chaudes et des boules froides? Pourquoi je pose la question? Parce qu'on a vu que sur le premier chapeau, il n'y a que les grosses écuries. Et sur le deuxième chapeau, il n'y a que des inexpérimentés.
Oui, mais je peux dire, en voyant le tirage, que ce tirage a favorisé d'autres équipes qui seront contents, c'est tout. Mais boule froide, boule chaude, ça, je n'en sais rien.
Ah bon.
Je n'étais pas sous la table. Mais et ça a favorisé des équipes qui, si jamais ils sont très, très sérieux, se prennent au sérieux, ils iront loin.
Christian Changon, on va très certainement avoir une finale entre, je veux dire, une équipe expérimentée et une équipe inexpérimentée.
Et exact, coach. Là, on sait du coup, avec le tirage au sort qui a eu lieu et le ce qui va en découler, on sait qu'en finale, il y aura au moins une équipe qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, ou Leipzig, ou l'Atlético Madrid, ou Bergame, ou le PSG. Donc ce sera une de ces quatre équipes. Enfin, surtout dans les quatre, il y en a trois qui sont inexpérimentées. Le PSG, Bergame et Leipzig, puisque l'Atlético Madrid a remporté plusieurs coupes UEFA en finale de la Ligue des Champions et tout. Donc l'Atlético, je les mets quand même un peu au-dessus du PSG, de Bergame et de Leipzig. Mais effectivement, on va voir une équipe novice, entre guillemets, à ce niveau-là. Et par contre, de l'autre côté, du côté de Lyon, il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd. Très, 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 très lourd.
Alors, justement, on va parler de Hakim, de ce tirage de Lyon. Est-ce que vous pensez déjà que Lyon pourrait passer l'écueil de la Juventus de Turin?
Ça va pas être une
1-0 au match aller.
Ça va pas être une partie de plaisir, coach Lamine, donc ça risque d'être compliqué. Si mes calculs sont bons, au niveau de l'Olympique lyonnais, on n'a pas un effectif au quasi complet, Christian.
Oui.
Au niveau des joueurs et côté Juventus, bon, même si il manque encore aussi quelques joueurs avec quelques blessures notamment, voilà. Je pense que ça va être un match intéressant et je dirais que Lyon peut tirer son épingle du jeu en étant sérieuse et puis en essayant de déjouer tous les pronostics, pourquoi pas en déstabilisant cette Juve emmenée par Cristiano Ronaldo qui commence, on le ressent. Alors, on l'a vu effectivement affûté, mais quelquefois un petit peu avec, on va dire, pas mal de maladresse devant les buts.
Mais Lyon récupère tout de même Hakim
Depay a joué là.
Bien sûr.
Là le dernier match amical. Ils reviennent tout doucement.
Physiquement, ils reviennent. Est-ce qu'ils reviennent physiquement?
Ils reviennent là. Ils ont joué un match amical là, la semaine dernière. On les a vus face à une équipe. Ils en ont mis 12, je crois, 11 ou 12.
Ouais.
C'est anecdotique. Hein, c'est vraiment un match de reprise. C'était un match d'entraînement. Mais tout doucement, c'est vrai que certains joueurs reviennent. Après, est-ce qu'ils seront à leur pic de forme pour le huitième de finale retour face à la Juventus? Ça, c'est une autre question, puisqu'on rappelle qu'en Italie, notamment, le football se joue. Et la Juve, par exemple, face à Lyon, ou Bergame face au PSG, ils vont arriver en pleine bourre. On a vu ce week-end, d'ailleurs, Juventus-Atalanta-Bergame, le match. Il y a eu deux partout entre ces deux équipes. On a vu que les joueurs, surtout du côté de Bergame, sont très en forme. La Juve, pareil. Donc, eux, ils vont arriver pour le quart de finale. Ils auront joué 12 matchs pour la Juve.
Et ça peut être fatigant aussi.
Peut être fatigant, ouais. Il peut y avoir un contre-coup. Mais en termes d'état de forme, ils seront quand même plus en forme que les Lyonnais ou les Parisiens qui, eux, vont arriver avec 3 matchs ou 4 matchs grand maximum dans les jambes. Donc en termes de rythme surtout, là, clairement, ce sera à l'avantage des équipes italiennes comparées à Lyon ou au PSG.
Oui, là, on parle du foot. Là. Vous savez très bien que le football, c'est l'un des rares sports où le petit peut battre le grand.
Tout à fait.
En plus, on peut voir un Depay en forme et ça change tout.
Bien sûr.
Donc, et là, les pronostics, là, sur un match, c'est complètement difficile.
D'autant plus que le stade sera vide. Hein.
Oui, c'est ça. Donc, ça peut. On ne sait pas qui peut être favorisé par cette absence de spectateurs.
Oui, et puis il y a eu, comme on l'a dit, Lamine, et comme l'a souligné à juste titre Christian, c'est-à-dire. On a eu cette longue attente en fait de retour sur les terrains. Il y a eu un match amical il n'y a pas longtemps pour les Lyonnais, c'est vrai. Mais à celui qui aura eu un petit peu plus peut-être de préparation, de mise en jambe, ça ne va pas être une partie facile. En tout cas, ça sera serré, je pense. Et ça va être une rencontre en tout cas palpitante et un des matchs le plus intéressant à suivre à ce niveau-là.
En tout cas, je ne vois pas Ronaldo. Vraiment ne pas essayer de faire gagner son équipe par rapport à la situation.
Ouais, mais t'as vu Ronaldo contre le Milan AC. On a vu Ronaldo contre le Milan AC. Il n'a pas pu faire grand-chose. Hein.
Ouais. C'est ça, mais...
Le Milan AC, c'est pas Lyon non plus.
On l'a vu ce week-end face à l'Atalanta Bergame. Ils font 2-2. C'est lui qui met les deux buts, certes, sur pénalty. Mais on, Willy, toi mieux que moi, tu le sais que les pénaltys, il faut les mettre.
Ah ouais,
et surtout, lui, comparé aux trois quarts des joueurs de football lambda, lui, quand il y a la musique de la Ligue des Champions, dans sa tête et dans ses jambes, c'est un autre niveau encore. On sait que, et je vois très bien le coach va en venir, lui, en termes d'exigence à ce niveau-là, on l'a vu plus d'une fois, il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Hein. Là-dessus, à ce niveau-là, il élève son niveau. Après, tu as raison. S'il y a bien une année pour les clubs français pour la remporter, c'est bien cette année puisque ça joue sur des one shot hein, les matchs.
Oui.
Donc,
oui.
C'est un coup KO quoi, comme on dit souvent sur ce plateau. Donc, mais c'est vrai que le tirage, le plateau du côté de Lyon, il est quand même très costaud. Si jamais Lyon réussit à sortir la Juve.
Messieurs, on va parler maintenant du Paris PSG. Paris Saint-Germain.
Ouais, moi je vois les gens qui sautent au plafond parce qu'ils ont eu. Atlanta, mais Atlanta de Bergame, si on suit bien cette équipe, avec le nombre de buts qu'ils marquent par match, et les équipes qu'ils ont éliminées pour être là, donc je ne pense pas qu'ils soient invités à être là. Donc les gens n'ont pas suivi, donc ceux qui sautent au plafond, et le PSG a intérêt à se prendre au sérieux pour aller loin, parce qu'ils ont une chance. Mais cette chance-là, il faut la jouer. Moi, j'ai vu le PSG contre Bruges, donc j'ai vu le PSG contre le Real. Le PSG n'est pas effrayant à condition qu'ils se prennent en
charge. Ils ont battu quand même le Havre 9-0. Hein.
Oui, mais je parle sérieusement là.
Ah, mais quoi, moi vraiment, justement, quand il y a eu ce tirage au sort, j'ai reçu beaucoup de textos. Oui, on va le PSG va en finale. Le PSG va se qualifier. Je leur ai dit, les gars, calmez-vous. Regardez ce que Bergame a fait cette année, cette saison. Regardez ce qu'ils ont fait l'an dernier. Regardez le match de ce week-end qu'ils vont faire face à la Juventus. On les a vus hier, le match, ce week-end, ce Juventus-Bergame. Ça se jouait à Turin, même si c'était à huis clos. Bergame a dominé la rencontre. Ils font 2-2. S'il n'y a pas les deux pénaltys de Ronaldo, ils remportent le match. Mais que ce soit dans l'agressivité, au niveau de l'attaque, au niveau du jeu, ils étaient largement... au-dessus de la Juventus. Coach, avoir suivi toute cette saison, Bergame, c'est pas un cadeau.
C'est une belle équipe,
même si Paris a les joueurs, je suis d'accord, joueurs, pour les attraper.
C'est défensif. En attaque, oui, pas mal, Bergame. Mais défensivement, ça fait 16 buts qu'ils ont encaissés quand même en Ligue des Champions.
C'est une équipe qui est capable de prendre 5 buts et d'en mettre 6. C'est ça, vraiment. Eux, pour le coup, ils sont capables d'en prendre 5 et d'en mettre 6. On les a vus contre City en Ligue des Champions. Même s'ils ont perdu au retour, à l'aller, ils les ont tués. Ils les ont eus. Et vraiment, il y a beaucoup d'équipes. Je les ai regardées là.
Christian Chango, qui est supporter du Paris Saint-Germain, essaie de se
dédouaner
pour dire attention.
Il est réaliste, il faut que
s'il se batte,
faire attention.
Ouais, vraiment, donc en tout cas.
Non, mais pour le coup, même si on peut se dire bon, c'est l'équipe a priori la plus faible comme ça sur le papier. Paris n'a rien fait en Ligue des Champions. On est comme Bergame à ce niveau-là. Donc, méfiance quand même. Même si, j'espère qu'on va les taper.
Oh là, c'est bon. Moi, j'ai pas mal. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Coé liste. Vous vous rappelez de Coé, l'ancien Benoît Coé?
Oui.
Il liste les atouts de l'Atalanta par rapport au Paris Saint-Germain. Ouais. Parce qu'il l'a joué là-bas.
Oui, tout à fait.
Et il considère que cette équipe a été façonnée au fil des ans par Gasperini autour de la détermination, du sens du sacrifice et d'un incroyable état d'esprit.
C'est exactement ça, d'énormes
qualités, n'a rien à perdre et enchaîne de bons résultats.
Oui, je vous dis que quand tu suis cette équipe-là, et cette année, tu sens que c'est une équipe très dangereuse, qu'elle n'a peur de rien. Qui revient dans le match à tout moment, il peut revenir dans un match. Donc, il faut faire attention.
Moi, quand je les vois jouer, ils me font penser au meilleur de l'Atlético sous le Cholo Simeone. C'est vraiment, mais beaucoup plus joueur encore, hein, parce que c'est vraiment très offensif. Mais dans ce que tu disais, coach, une équipe qui ne lâche rien, qui se bat sur tous les ballons, qui attaque ensemble, qui défend ensemble, qui court partout. Quand on regarde le nombre de courses qu'ils font, ça me fait vraiment penser au meilleur de l'Atlético du Cholo Simeone. Quand on les a vus, vraiment, ils ont ce fighting spirit un peu anglo-saxon, le German spirit, vraiment du côté de l'Allemagne. Ils ont ça en eux. Et Benoît Coé a totalement raison. Lui qui les voit au quotidien, qui les a vus, il a raison là-dessus. Donc c'est pour ça, vraiment, il faut s'en méfier.
En tout cas, on verra bien ce que feront nos amis du Paris Saint-Germain, parce que nous, on a quand même Kylian Mbappé.
Oui,
je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui, mais c'est comme une équipe où on a des stars. On a Neymar, on peut le citer. On a vu la Yas qui était en demi-finale l'autre fois. On ne connaissait presque pas un joueur, sauf Daley Blind. Donc, c'est la même chose. Donc, une équipe, ils vont jouer à 11. Hein.
Ils sont en confiance.
Ils vont jouer à 11 aussi.
Ils sont en confiance. Et encore une fois, c'est un coup KO. Donc, ça peut être terrible pour toutes les équipes.
Ouais.
Ça peut aller très vite.
Il faut se méfier. On a coach Lamine là. Il y a eu aussi le départ de Cavani. Il y a tous ces petits
mais problèmes. On a Icardi.
De Meunier, Kouassi. C'est vrai, on a Icardi,
d'ailleurs,
bien sûr.
D'ailleurs, messieurs...
Mais quant à la séparation de ces joueurs qui ont été importants cette saison, et notamment les saisons précédentes, voilà, faudra faire attention, faudra se méfier. Mm. Même s'ils ont gagné effectivement largement face au Havre, je pense que Thomas Tuchel, il sait très bien que un match contre l'Atalanta Bergame, ça ne sera pas une partie de plaisir.
Plein feu sur la Liga, sur Africa.
Hello, que tal, mi amigo de España. Se llama el mejor.
Bonsoir coach Lamine, bonsoir à tout le plateau, bonsoir au doyen Willy, bonsoir à mon jeune frère Christian, bonsoir à qui.
Salut Adama.
Bonsoir Adama.
Bonsoir à Valentin Blanc, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de la Radio Africa numéro 1. Bienvenue dans la meilleure Liga del Mundo.
Ouais,
nous, on va
Adama.
Aller chercher la Champions League.
Adama, on est triste.
Nous, on va la ramener chez nous.
Adama, on est triste.
Pourquoi vous êtes triste, coach Lamine?
Mais
vous
avez parce que tout simplement...
Mbappé. Vous avez Icardi, vous avez Silva qui va partir, mais bon, qui va jouer sa carte. Eh ben, vous avez Verratti, mais nous, on ne vous envie pas. Nous, on a Messi, nous, on a Karim Benzema. Voilà.
Non, mais c'est mon équipe qui descend en deuxième division.
Ah oui.
Alors,
oui.
Alors, la précision, c'était de savoir que devient Thomas Nkono. Je l'ai cherché partout. J'ai essayé de l'appeler, malheureusement, je ne l'ai pas eu.
J'ai essayé de le joindre au téléphone. Honnêtement, il ne m'a pas répondu, mais il a répondu à un de mes WhatsApp. Mm-hmm. Il m'a dit qu'il me revenait. Mm-hmm. Et donc, voilà, ce n'est pas des moments aisés. Ce n'est pas des périodes de bouffée d'oxygène. C'est des périodes un peu difficiles selon son âge, selon l'amour. Et la confiance qu'Espagnol de Barcelone a apportée vis-à-vis de ce grand monsieur de football africain qui, aujourd'hui, a implanté sa vie du côté de Barcelone. Je vois mal Thomas Nkono en train de changer de ville. Mm-hmm. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir, mais je tiens d'abord à l'avoir, à pouvoir échanger avec lui. Il a été plusieurs fois avec nous sur le plateau de Tout Foot. Tout fait, tout foot. Essayer, en temps normal, de revenir vers lui. Voilà, de le faire parler sur notre radio, de parler à tous les fans de ce grand monsieur de football continental.
Alors, ça faisait 85 ans, doyen Willy, 85 ans que l'équipe de l'Espagnol de Barcelone a passé dans l'élite. En 85 ans, ils ont été fondés en 1900. Ouais, 1900. Hein. Ils ont joué la Coupe d'Europe, la finale de la Coupe d'Europe de l'UEFA. Et puis en 88 et puis en 2007, c'est quand même, ils ont été sauvés en 2003-2004 par Fernandez, Luis Fernandez, qui était entraîneur là-bas, ouais. En 2008-2009 par Pochettino. Mais je crois que depuis l'arrivée d'un Chinois qui est venu investir à peu près 200 millions d'euros au niveau de cette équipe-là, je pense qu'il y a eu un problème. C'était en 2016 qu'il a acheté le club, et donc malgré ses investissements avec des joueurs chinois qui sont venus jouer dans l'équipe, ça n'a pas été, puisque aujourd'hui le constat est clair, le club est relégué en deuxième division.
Oui, coach Lamine, je ne vais pas inculper le tien, le président chinois, le président d'Espagnol de Barcelone. Et même le Chinois dont vous parlez, regardez les statistiques, eh ben, il a fait deux bonnes saisons. Regardez le nombre de minutes jouées, le nombre de buts marqués dans le championnat européen, que ce soit au niveau de la Liga ou de Europa Liga. Mmh. Ce monsieur, il a fait la différence. Mais je pense que les clubs, peut-être que je vais rejoindre le doyen Willy, il faut pas oublier l'originalité et la fondation des clubs que nous avions. C'est bien d'avoir des investisseurs, mais oui. aussi, il ne faut pas perdre l'identité des clubs.
Oui.
Malgré les sous que le Chinois a investi,
on parle de 200 millions.
Devrait se porter bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu trop d'ingérence. J'apporte les sous, mais voilà ce que je veux qu'on fasse. Eh bien, à un moment donné, ça n'a pas fonctionné. Pour la même saison, ils sont au quatrième entraîneur.
Ben oui, exact. Puisqu'ils ont eu quand même quatre entraîneurs en l'espace de qui se sont succédés. Hein, ouais. Quatre entraîneurs. Et ils ont pris 11 points, Willy. 11 points lors des matchs allés. 11 points.
Ouais, mais c'est trop peu. Et moi, et l'ingérence dont il parle, parce qu'on a vu des présidents emblématiques comme Tapi, Baez, Berlusconi. C'est-à-dire des présidents qui savent de quoi ils parlent quand ils parlent de foot. Exact. Donc quand on ne s'y connaît pas trop, faut pas être, y a pas trop d'ingérence parce que ça tue tout et ça tue même l'âme de cette équipe. Mm-hmm. Ouais.
Faut pas oublier que l'Espagnol, Coach Lamine est une l'Espagnol Barcelone est une grande équipe dans laquelle Thomas Nkono est effectivement attaché puisque il est toujours officiellement l'entraîneur des gardiens de but.
Ouais.
Alors, pour l'anecdote, c'est que c'est pas la première fois qu'ils sont relégués en Segunda División, en deuxième division espagnole. C'est la cinquième fois, Damaso Rabier, que l'Espagnol quitte la Liga depuis 1994. Maintenant, on connaît l'Espagnol Barcelone. En 2006-2007, l'Espagnol avait réussi à atteindre la finale de la Coupe de l'UEFA pour la deuxième fois de son histoire. Entraîné par Ernesto Valverde, faut pas oublier, c'est-à-dire. Il y a une histoire dans Coach Lamine. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une histoire dans ce club. Après, oui, il y a eu l'achat de. Il y a eu des investissements venus de Chine pour pouvoir aider le club, etc. Dans l'achat de joueurs, la restructuration un petit peu du club. Mais le club a une identité, comme l'a dit Adama Sorabé. Il a une histoire. Et c'est vrai que. Moi, je pense que. Voilà, faut pas. C'est triste de voir l'Espagnol Barcelone en deuxième division, mais. C'est toujours descendre pour mieux remonter en fait et apporter beaucoup plus de belles choses.
Oui, mais Hakim, moi je suis triste. Une grande ville comme Barcelone, nous aurons qu'une seule équipe en première division.
Tout à fait.
Donc Catalogne, c'est la descente aux enfers. Catalogne aura qu'une seule équipe en première division. Mmh. Et quand je suis arrivé à Barcelone, on avait Espagnol de Barcelone, on avait par moment un Nassi de Tarragone.
Ouais.
On avait Gironde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
Ouais.
On a qu'un seul club qui va jouer la première division comparativement à Madrid et la banlieue de Madrid, comparativement à Séville et les banlieues de Séville et d'Andalousia. Et c'est là où vous voyez qu'il y a un problème. Oui, 200 millions, c'est beaucoup. Mais comment ont été financer les 200 euros. Mais quand un président il arrive,
pas 200 euros,
il met
200
sur la
millions.
Table, voilà, il met sur la table, oui, gérer ça.
Ouais, mais il n'était jamais fois, là non plus, Adama. Il n'était jamais là, il était toujours en Chine.
Il n'était jamais là, mais voilà. Mais moi, à chaque fois que je rencontre des Chinois au stade, je vois, il faut faire forcément jouer le Chinois qui est la star. Qui est plus star en Chine que Cristiano et Messi.
Exactement.
Et donc, c'est devenu une question de business.
Mais est-ce qu'il touche une bille, ce gars-là?
Voilà, le jour qu'il a marqué contre Barcelone, ils ont fait match nul sur le stade d'Espagnol de Barcelone, cette saison, vous savez combien de bourses ont augmenté du côté de la Chine? Mais à un moment donné, on perd l'identité du club.
Mmh. Ben ouais, mais c'est ça. Le problème, il y a quelqu'un qui dit toujours, on n'est pas banquier, quoi. Donc, voilà, ce sont
les Chinois, là, hein, ils peuvent ramener leur investissement, etc. Il ne faut pas oublier que le club a été fondé en 1900, avant la Première Guerre mondiale.
Ouais.
Ce n'est pas des investissements venus de Chine qui vont modifier, comme le dit Adama, l'identité d'un non. l'identité l'histoire d'un
non,
club
mais le souci
c'est obligé
maintenant non ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice en amenant des investissements etc. Mais on l'a vu avec Paris Saint-Germain, les Qataris, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Mais Paris Saint-Germain, c'est pareil.
Qu'est-ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions?
Si jamais le Paris Saint-Germain cette année ne gagne pas la Champions League,
c'est une catastrophe.
Je crois que le projet risque de mourir.
Non, il va pas mourir, on va l'envoyer à Marseille.
À Marseille, oui.
Voilà.
Ouais, mais on a vu l'ingérence aussi, les gars. On a vu aussi l'ingérence des Qatariens au niveau du PSG quand la direction avait menacé entre guillemets Ancelotti. Mais c'est eux qui ont fait partir Ancelotti. Vous avez oublié?
Mais bien sûr.
Mais c'est la même chose. Donc quand vos sous là et prennent le devant sur le terrain, ça peut casser des choses aussi.
Et tout le travail qu'avait fait Antoine Camboire avant qu'il limoge, il était premier premier au mois de décembre. Alors,
on dit la même chose.
On le vire derrière.
Après, encore une fois, ça dépend des hommes qu'on met en place à ce niveau-là. Vous regardez par exemple du côté de Lyon. Il y a des investisseurs. Jean-Michel Aulas a ouvert à des investisseurs du côté de la Chine, notamment Hyundai, pour ne pas les citer, et d'autres marques qui ont des parts à hauteur de 30%, mais ça reste lui le leader principal.
Oui, donc, parce qu'il sait ce qu'il veut.
Voilà.
Mais oui,
exactement,
mais
il ne faut pas perdre le contrôle.
Voilà.
Faut pas
mais
perdre
c'est, le contrôle. C'est que peut-être que les Chinois.
Je vous donne un exemple. Quand les Chinois sont arrivés, notre frère, Job, Pap. Mm-hmm.
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont fait, ce monsieur? C'est une machine.
Elles l'ont vendu.
Eh ben, il faisait pas partie des plans de planning.
C'est ça,
et de marketing.
Aïe.
Mais ce monsieur, il est parti à Ibar. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il continue pas à faire au niveau de la Liga?
Parce Adama, comment a réagi la presse catalane?
Ah, mais c'est la désolation totale. Mais c'est comme un deuil. Et lors du coup de sifflet final au Camp Nou, match qu'on n'a pas pu suivre à cause de la Covid, mais je peux vous dire que même les joueurs de Barcelone, la moitié de l'effectif du Barça, ils sont amis aux joueurs d'Espagnols de Barcelone. C'est des gars qui sortent ensemble.
Ouais, ça va les renforcer. Ils vont prendre des joueurs de l'Espagnol de Barcelone, oui.
Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est la débandade totale, hein. Le Chinois, il veut de l'argent maintenant.
Mmh.
Il veut de l'argent sur les joueurs qui sont courtisés à travers le monde entier. Il a mis 20 millions sur Raoul de Thomas en janvier. Maintenant, il veut 50 millions. Mmh. Vous voyez un peu le business? Il y a au moins 8 personnes qui vont partir.
C'est catastrophique.
Vous croyez que si les 8 personnes qui sont ténors de ce club qui partent, Espagnol peut sortir la tête sous l'eau? Pour la saison prochaine, revenir en première division? Non, il faut d'abord se battre pour maintenir ces gars-là et faire un travail pour pouvoir revenir au premier niveau.
Si, Adama,
c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
Adama, s'il y a des investissements colossaux comme ça qui sont apportés depuis l'Asie pour ce club catalan, pour l'Espagnol Barcelone, à un moment donné, je pense que les stratégies de recrutement doivent être efficaces. Là, on a l'impression qu'il y a eu il y a de l'argent qui a été injecté, mais que derrière, au niveau recrutement, au niveau stabilité par rapport à l'effectif, ça n'a pas été terrible, quoi.
Adama, on va passer rapidement du côté du championnat avec on a perdu Adama. Christian Chango, le classement du championnat de la Liga.
D'accord, le classement, messieurs, déjà, on va parler des matchs qui sont en train de se jouer. Déjà, à 22h, Granada va être opposé au Real Madrid de Zinedine Zidane. Le Villarreal perd 2 buts à 1 face à la Real Sociedad. Alaves, Getafe, 0-0, 96e minute de jeu. Au classement, le Real est toujours premier, Barcelone deuxième.
Combien de points ?
Le Real premier avec 80 points. Le Barça, deuxième avec 79 points, mais un match de plus joué. L'Atlético Madrid, troisième à égalité avec Séville avec 66 points. Villarreal, cinquième avec 57 points. Getafe, sixième, l'équipe de Djené Dakonam, le capitaine et international togolais. Le Valence est 9e, Granada 10e. En bas du classement, Leganés, Mallorca et malheureusement l'Espagnol Barcelone dont on vient de parler qui est condamné à la 2e division.
Alors Adama, on vient de finir le classement de la Liga. Toujours le mano à mano entre le Real de Madrid et Barcelone.
Oui, Barcelone qui a gagné 1-0.
Il y a plus de mano à mano. Hein.
Pourquoi ? Il y a un point de différence.
Pour l'instant.
Non, mais moi je vous ai dit, Doyen Willy, je crois que ce jour-là il m'a soutenu, il m'a dit, moi je suis un journaliste, je ne vais pas faire de pronostic, mais je l'avais dit qu'on était à la 32e journée, qu'il me sera difficile, en connaissant la Ligue espagnole, de voir Madrid perdre le titre. Mais je pense qu'après le match de Madrid demain, ben, nous sommes à la 36e journée, il ne restera que 2 journées. Et donc, pour moi, il n'y a plus de mano à mano.
Donc, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le Real... Imaginons que le Real ne gagne pas aujourd'hui.
Oui, mais c'est possible. Mais
c'est possible, c'est possible.
Mais ouais, non, il ne faut pas dire que le Real très, très est champion.
Ce serait très, très difficile. Il faut 2 défaites.
Ouais, non, pas 2
défaites. Contre la mine, il faut 2 défaites.
Oui, mais toi aussi, ouais. Tu penses que le Real va laisser le championnat filer, non?
Sachant que, à la différence particulière, le Real a quasiment... Un 2 points de plus au final. Là, en attendant le match, le Real a déjà 2 points de plus quasiment, puisque à la différence particulière sur les matchs.
Ça, si on fait les calculs rapidement, il faut 2 défaites de Real
exact.
Pour permettre au Football Club de Barcelone
c'est
de devenir champion.
Tout à fait, exact. Ouais. Donc ça risque d'être compliqué. Mais foot, rien
n'est impossible. Même si le Real fait une défaite et un match nul, le Real est champion.
Bien sûr. Dû au on rappelle, voilà. Hein, entre le Real et le Barça, ça avait tourné plus à l'avantage du Real. Donc
mais dis-moi, Adama, vous ne nous aviez pas dit qu'il y a un Mauritanien qui joue dans l'équipe de Villarreal, Mahmoud, je ne sais pas comment.
Il y a Chukwueze, en tout cas, du côté de Villarreal.
Mais il y a un Mauritanien qui joue, hein, Mahmoud Abdallah ou je ne sais pas, quelque chose.
À Villarreal, oui.
C'est bien Villarreal.
À Villarreal, oui.
Ouais. C'est un Mauritanien, il faudrait... Bah, c'est tellement rare. Et vous êtes sûr que ce n'est pas un Sénégalais qui s'est transformé?
Non, mais coach Lamine, quand les Mauritaniens nous ont tapé, c'était bien. Ils ont tapé le Burkina Faso.
Ouais.
C'était avec la complicité des Sénégalais passés du côté mauritanien. Non, vous savez, il y a une histoire qui lie les deux pays. Et ouais, donc aujourd'hui, qui parle de la frontière mauritanienne et du Sénégal, généralement. Il ne faut pas se cacher la face. Mmh. C'est le colon qui a divisé l'Afrique par rapport aux frontières. Culturellement, il n'y a pas de frontière entre nous, Africains.
Bah, moi, en tant que Sénégalais, il y a une frontière. À part le poulet bicyclette, je ne vois pas qu'est-ce que...
Ça, c'est à Ouagadougou au Burkina.
Oui. Voilà. À part le poulet bicyclette, je ne suis pas le frère du Burkinabé. Hein.
Eh ben, quand on parle de Tchèbdjen, c'est le Sénégal. C'est une identité.
Ouais, mais moi, je préfère le poulet bicyclette aux abords du stade à Ouaga.
Messieurs, une page de pub, on revient.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa.
Avec Christian Chango, avec le doyen Willy Dorkono, Hakim Djellouap et bien sûr Adama Sourabié. Messieurs, on va passer à la Ligue 1. C'est ça, hein, la Ligue 1.
La Ligue 1. La Première Ligue.
La Première Ligue.
La Première Chip.
Non.
Première Ligue.
Première Ligue. Le Chip, c'est la deuxième division, doyen. Non, mais doyen, là tu connais plus le foot.
Non,
on n'est pas encore. Non, on n'est pas au championnat de ton coin, à Lomé, à ton coin.
J'ai dit Premiership, j'ai pas dit Championship.
Monsieur l'Angleterre, Christian Chango, le classement et les résultats.
Oui, le classement, avant de donner le classement, Manchester United joue face à Southampton. 2-1 pour Manchester United, c'est la 30e minute de jeu. Rashford et Martial pour Manchester United ont marqué. Au niveau du classement, messieurs, je vais vous le donner de suite. Hop là. Liverpool, premier champion, bien entendu, 93 points. City, deuxième avec 72 points. United, avec sa victoire pour l'instant, passe devant Chelsea et troisième. Chelsea, quatrième. Leicester, cinquième. Tottenham, huitième. Arsenal, neuvième. Everton, onzième. Palace, quatorzième. Bournemouth, Aston Villa et Norwich ferme la marche. Au niveau du classement, au niveau des matchs, pardon, quelques résultats. Leicester a perdu face à Bournemouth 4-1. Tottenham a battu Arsenal dans le derby de Londres, du nord-est de Londres, 2-1. City a battu Brighton 5-0. Chelsea a perdu face à Sheffield 3-0. Un but partout entre Liverpool et Burnley. Et voilà pour les résultats principaux, messieurs.
Alors, messieurs, du côté de l'Angleterre, hein, je crois qu'il y a une grosse information qui est tombée. Donc,
ce matin,
c'est tout simplement une bonne nouvelle pour Manchester City, votre club de cœur, le doyen Willy. Ouais. Le TAS a annulé la suspension de 2 ans qui sur la Ligue des Champions.
Donc, ouais, c'est prévisible.
Ah ben, pourquoi c'était prévisible?
Oui, mais c'est une question de sous. Donc, à chaque fois, je sais qu'ils allaient gagner au niveau du TAS. Oui, mais le TAS...
Alors, on va décortiquer un peu cette bonne nouvelle. Et quelles sont les conséquences de cette décision du TAS par rapport à ce club de Manchester City? Oui.
Oui, bah écoutez,
ne bousculez pas.
Ouais, non, d'accord. Je pensais, quand t'as dit on va écouter, je pensais que tu nous balançais du son, c'est pour ça. Alors déjà, on va rappeler donc le pourquoi du comment. Donc City a été jugé dans l'illégalité pour avoir gonflé un peu ce qui est arrivé au PSG, pour avoir gonflé un peu les résultats dus au partenariat. En fait, il y avait un partenariat en particulier qui était fait avec une compagnie aérienne, et le résultat donc qui a été un peu gonflé, donc c'est la compagnie aérienne du Cheikh Mansour qui est l'émir donc des Émirats Arabes Unis et le président accessoirement de City. Donc ça avait été jugé comme des résultats faux entre 2012 et 2016. Donc City avait été débouté. Ça devait aboutir à une suspension de 2 ans en Ligue des Champions à partir de la saison prochaine. Mmh. Cette suspension aurait du coup engendré la perte de beaucoup de talents, le départ du coach, de certains joueurs, dont Kevin De Bruyne, l'ami de Salim que je salue. Plein de joueurs devaient partir. Finalement, ce matin à 10h30, la décision est tombée. City a été jugé dans la légalité par le TAS, par le tribunal administratif du sport. Et donc, du coup, City, l'an prochain, qui a gagné sa qualification sur le terrain, pourra se présenter en Ligue des Champions pour les 2 prochaines saisons. Qu'est-ce que ça va engendrer derrière? Du coup, City a des sous à dépenser pour le prochain mercato. Et donc, sur le prochain mercato, notamment, on parle d'un défenseur qui évolue du côté de Naples, que toute l'Europe s'arrache, mais qui lui a parlé, justement, on en parlera dans le journal, pour dire que son avenir resterait sûrement du côté de Naples.
Ça, voilà, c'est clair. Il s'appelle Kalidou Koulibaly.
C'est ça, je crois. Hein,
en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Adama, oui.
En Espagne, juste un mot. Exactement, c'est ça. Juste un mot, Adama, justement. Donc, le fair play financier avait été mis en place justement pour empêcher les nouveaux riches, entre guillemets, comme City, comme le PSG, de déranger l'ordre, et Willy disait souvent, de déranger l'ordre établi par les anciens clubs historiques. Et avec la décision qui a été remise il y a quelques mois déjà pour le PSG, et celle-ci qui est tombée tout à l'heure pour Man City, est-ce que ça annonce la mort du fair play financier?
Ouais.
Et voilà, et ça a fait réagir Porque Tebas,
Javier.
Ça l'a fait réagir comme d'habitude. Ça, je laisse Adama après en parler pour savoir un peu ce qu'ils disent du côté de l'Espagne.
Oui, Christian et Coach Lamine de Rayon Willy, c'est vrai. Il n'y a qu'un seul club qui a payé cash le fair play financier du côté de l'Espagne. Non, deux clubs. Voilà. Le Football Club de Barcelone, l'Atlético de Madrid. Même Madrid est sorti vainqueur par rapport à ça. Mmh. Et donc, le club le plus riche arrive toujours à contourner ce tribunal arbitral sportif. Donc aujourd'hui, moi je pense que le football est devenu une histoire de gros sous.
Dinero, dinero.
Ceux qui sont, el dinero caliente. Et ceux qui sont prêts à mettre la main dentro del bolsillo, comme on le dit ici en Espagne, ils peuvent se permettre tout. Même sur le continent africain aussi.
Ouais, mais partout.
Je ne veux pas revenir sur l'histoire. Et donc, de plus en plus, je pense que le football, la place des pauvres, commence à s'éloigner petit à petit dans ce grand monde du foot, et ce serait un gros gâchis.
Oui, on ne verra plus les Steaua ou Bucarest gagner la Champions League.
L'étoile rouge.
En plus, moi, j'invite à tous ceux qui veulent du football propre d'aller sur les terrains vagues ou sur les plages.
C'est là-bas qu'on va trouver du football propre.
Ouais, la question qui se pose, c'est est-ce que le fair play financier est mort? Est-ce que le fair play financier, effectivement, a annoncé, effectivement, est-ce que ce jugement annonce la fin d'un fair play financier par rapport à la décision qui a été prise au TAS, par le TAS? C'est ça la question qui se pose.
Oui, pour moi, bien sûr. Bien sûr. Je veux dire que cette décision du TAS va faire jurisprudence. À chaque fois qu'il y aura un club qui sera étonné, il ira et va valoir. Bon, ce qui s'est passé aussi au niveau de cette affaire du Manchester City, c'est que quelque part, il me semblerait que ce qui a été jugé, c'est qu'on ne peut pas prouver le gonflement de cette situation.
Exactement, coach. Et je faisais le parallèle avec le PSG. Ça avait été exactement le même cas où le PSG était soutenu notamment par QNB, Qatar National Bank, et pareil aussi par l'autorité du tourisme. Pareil, il y avait un contrat similaire aussi qui avait été un peu surgonflé, paraît-il, selon les experts. Et après jugement, finalement, la décision est allée en faveur du PSG. Il y a eu une amende de payer, une amende de 30 millions. Pareil pour Manchester City, il y a eu une amende à payer. Et puis hop, on passe à travers. Moi, je trouvais que l'idée du fair play financier de Michel Platini était noble. Mais malheureusement, ça ne peut pas se tenir. À partir du moment, et Adama en a parlé, où, par exemple, en France, il y a la DNCG qui contrôle les clubs. Quand en Espagne, un club, et Adama pourra peut-être me contredire si je me trompe, quand un club est endetté à hauteur de, je ne sais pas, 500, 600 millions, et que derrière, il est protégé par la Banque d'Espagne, par le Crédit d'Espagne, par le Roi, Adama pourra mieux en parler que moi, qui peuvent permettre à ces clubs de passer outre, de pouvoir générer des pertes de 500 millions d'euros et de pouvoir être qualifiés. Alors qu'en France, si vous êtes déficitaire de même 10 000 euros, vous passez pas à la DNCG, vous êtes éliminé de la compétition. Donc déjà, à ce niveau-là, au niveau européen, il n'y a pas d'égalité.
Alors, est-ce que c'est dommage ou pas?
Bien sûr que c'est dommage.
Oui, c'est dommage.
Ça tue des clubs. Et oui, il y en a parlé. Des clubs comme l'Étoile Rouge de Belgrade, comme le Steaua. Des clubs avec des finances. En gros, le projet de Super League que veulent faire certains clubs, comme on fait en NBA, du système fermé, ça, on va y arriver. Où il n'y aura que les riches qui joueront ensemble. Et puis les autres derrière, ils ramasseront les miettes. Malheureusement, le football génère. L'économie du foot génère beaucoup d'argent. Et plus tu as de l'argent, plus tu peux peser et faire infléchir les instances. Les instances, là, ils passent pour des guignols à ce niveau-là. Ouais. Donc, en gros, là, l'équipe, on sait que le contrat
l'UFA,
est peut-être faussé. On sait que le contrat est faussé. On vous fait une amende de 30 millions d'euros que vous nous réglez, que ça tombe dans nos poches. Et derrière, où est l'impartialité? Où est vraiment le véritable sport, quoi.
Hakim?
Non, moi, je pense que ça va effectivement être une partie un peu compliquée pour les clubs qui ont de moins en moins de moyens, en tout cas par rapport à ces grosses écuries. Et c'est vrai que là, on se dit que quelque part, cette méthode-là pour pouvoir équilibrer un petit peu les recettes des différents clubs au niveau Europe, que ce soit pour les petits clubs, les moyens et les plus gros, ça va être maintenant difficile parce que là, il n'y a plus de...
On a l'impression en fait que, c'est-à-dire les décisions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il suffit d'avoir d'énormes moyens, coach Lamine, pour pouvoir justement effacer ces ces problèmes. Donc là, il s'avère que avec cette décision-là qui a été énoncée, donc c'est-à-dire supprimer l'amende et la baisser de 20 millions, c'est ça ?
Ouais.
À la base, c'était un peu plus de 30 millions d'euros. Là, ils ont mis une amende de 10 millions. Enfin, pour Manchester City, c'est que dalle.
Alors,
c'est rien du tout. Donc là, c'est-à-dire la valeur et la crédibilité du tribunal arbitral du sport, elle est entachée là. C'est catastrophique.
Donc, est-ce que c'est une bonne revanche pour l'UEFA de mettre tous les gros clubs dans le tirage au sort d'un côté et de l'autre?
Oui, mais c'est pas ça. Et rien n'est clair au niveau. C'est ça. Et le football, là où il y a l'argent, il y a toujours des malversations. C'est clair. Donc, on a vu des clubs comme le Real où ils trouvent les sous où le Real par rapport à l'économie espagnole. Donc, on se pose beaucoup de questions depuis longtemps. Mm-hmm. Donc, c'est les sous. Ils veulent même créer une super ligue, c'est-à-dire que pour chasser les petits. Mmh. Et ils veulent même en créer en Afrique. L'autre fois, il y a une proposition de Infantino l'autre fois à cet effet. Donc c'est pour ça que j'invite les gens qui veulent voir le vrai football d'aller sur les plages et sur les terrains vagues.
Ou bien à Copacabana.
mais sur les plages de Copacabana, pas au Maracana.
Adama, pardon, je voulais demander à...
Adama nous a quitté et il est parti.
D'accord, ok, puisque oui, ça a
il avait plus de crédit.
Ça a fait réagir du côté de l'Espagne, Tebas, notamment le président de la Ligue espagnole, qui a réagi vivement en fustigeant en gros le TAS et la décision qui a été rendue, qui dit en gros que c'est une mascarade et que...
Il voulait tout simplement éliminer Manchester City.
Oui, mais surtout, là où je le trouve un peu hypocrite, et c'est dommage, j'aurais voulu avoir la réaction d'Adama là-dessus, on le sait, pendant des années... Par exemple, le Real Madrid.
Oui.
Après, le Real Madrid a beaucoup d'argent. Florentino Pérez, c'est le numéro 1 du BTP mondial. Il a beaucoup d'argent, ça c'est un fait. Le Real Madrid génère énormément de revenus et ils sont protégés aussi par la Banque d'Espagne.
Oui.
Mais pendant des années, les clubs en Espagne pouvaient s'endetter et passer sans problème, avoir des dettes colossales et rejouer. En France, on n'a pas le droit à ça.
Ah, oui, c'est
donc
clair.
Déjà, il y a une inégalité à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que je trouve un peu... Il aime bien charger, notamment le PSG et City, les nouveaux riches, comme on dit. Mais on le sait que du côté de l'Espagne, notamment, il y a beaucoup de clubs qui ont du mal à finir la saison en positif. Et pourtant, ça passe. Et ça ne le dérange pas. Donc, faut toujours nettoyer sa porte à son palier avant de parler des autres.
Ligue 1, sur Africa.
Oui, un dernier mot, Hakim, rapidement.
Sur ce que disait Christian par rapport aux propos de Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnol, il a effectivement un des défenseurs nés du fair play financier en Europe. Et ce qu'il a dit, je cite,
rapidement, pour
compléter ce qu'a dit Christian, c'est qu'en gros, la Suisse, c'est un pays avec une grande histoire dans les arbitrages, mais le tribunal arbitral du sport n'est pas à la hauteur. Nous devons voir si le TAS est l'organe approprié pour faire appel à des décisions institutionnelles dans le football, en pointant du doigt Javier Tebas quand il a été interrogé par nos confrères. Et je pense qu'il a tout à fait raison et c'est légitime de sa part de s'exprimer ainsi quand il reste effectivement l'un des plus grands défenseurs du fair play financier.
Ok, alors Christian Chango, le championnat, le calendrier de la Ligue.
Oui, exact coach. Hein, donc on a vu donc le calendrier.
Qui reprend quand ? Il reprend.
Et ça reprend le 23 août, si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça dans quelques instants. Mais on a vu déjà donc la Ligue des Champions qui a eu son tirage au sort. Et là enfin donc la Ligue 1 qui a donné son calendrier. Donc ça reprend le 22 août précisément. Mm-hmm. Et le 23 août, pardon, c'est la finale de la Ligue des Champions.
Alors.
Donc je vais vous donner la première journée. Déjà on va la donner. Dijon face à Angers, Montpellier face à Lyon. Marseille face à Saint-Etienne, Monaco, Reims, Nîmes, Brest, Lorient, Strasbourg, Lille, Rennes, Bordeaux, Nantes, Nice, Lens et le PSG face à Metz.
Alors, Doyen Willy, ce calendrier qui commence avec...
Le 22 août.
Le 22 août, ouais. On a vu un calendrier d'ores et déjà. Si on prend par exemple l'Olympique de Marseille, on voit déjà que c'est c'est une première journée assez difficile.
C'est dur, ouais. Par rapport à la journée du PSG.
Mais comment vous voyez, vous, ce calendrier qui va commencer?
Ouais,
n'oublions pas que peut-être que ça va se jouer devant 5000 spectateurs.
Oui,
c'est déjà pas mal.
Ouais, ouais. Mais moi, je vais directement sur au niveau du recrutement des clubs. Est-ce qu'ils ont pu recruter par rapport à cette pandémie? Donc, on prend, par exemple, l'OM. Et ils n'ont pas fait un bon recrutement pour l'instant.
Ils ont pris un bon joueur.
Gueye du Sénégal.
Exact.
Donc c'est un bon joueur. Il vient du Sénégal.
Oui, mais c'est un bon joueur. Mais il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'OM.
Ils ont réussi déjà à conserver leur coach.
Oui, déjà ça, parce qu'il a fait du bon boulot, lui. Donc déjà, au niveau de l'OM, il faut vraiment renforcer le club. Je ne sais pas s'ils ont les moyens financiers pour le faire, parce que ça, c'est un peu difficile sur le plan financier par rapport au... Moi, je parle de l'OM parce que le seul club, je pense, en France, à part Lyon, qui puisse concurrencer le PSG, c'est ce club.
Est-ce que, je vous pose la question à vous trois, est-ce que ce n'est pas le moment, justement, quand le doyen parle de transfert ou de recrutement? Est-ce qu'avec cette pandémie-là, les gens ont pu recruter comme ils le voulaient par rapport au salaire, par rapport au montant? Est-ce qu'on ne va pas se tourner plutôt vers des prêts?
Exactement. Ouais. En fait, parce que là, la fenêtre de Mercato est fermée. Elle va rouvrir...
En France.
Oui, en France, tout à fait, vu qu'on parle de Marseille et de la Ligue 1. Donc en France, elle est fermée. Ça va rouvrir à la fin août, si je ne me trompe pas. Ça va être pour la période de fin août-septembre. Et donc oui... Pour l'instant, déjà, pour ceux qui ont pu faire des transferts avant, la pandémie de la Covid-19 a fait baisser la valeur des joueurs. De tous les joueurs, elle a baissé. Mais en même temps, le portefeuille en termes d'oseille, il a baissé aussi pour les clubs. Donc effectivement, il y avait la possibilité de se tourner sur les prêts. Malheureusement, il n'y a pas eu trop d'opportunités pour les clubs, notamment pour Marseille, même s'ils sont partis chercher le jeune Gueye que beaucoup de clubs voulaient. Donc ça, c'est... Un premier bon point pour Marseille. Après, ils se sont tournés aussi vers les jeunes. Beaucoup de jeunes que Marseille a eu du mal à faire signer pendant la saison. On a vu du côté du PSG le jeune Tanguy Kouassi qui a signé son contrat pro au Bayern. Marseille a réussi à conserver pas mal de jeunes joueurs, à les faire passer pro pour les meilleurs. Donc c'est une bonne chose. Après, est-ce qu'ils se sont renforcés? Ça, c'est autre chose. On rappelle que Marseille est qualifié pour la Ligue des Champions. Et il va leur falloir quand même un peu plus que ce qu'ils avaient,
Que
Marseille avait l'effectif actuel, puisque Marseille est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Donc forcément, la question se pose, il faut que Marseille se renforce.
Ouais. Hakim ?
Oui, c'est une chose importante. Après, moi, je reste coach Lamine. J'attends de voir un petit peu le début de saison. C'est vrai qu'on a eu une longue attente. Il y a eu pas mal de semaines, voire de mois donc, d'arrêt. Reprendre comme ça, donc, certes, ça va leur faire du bien. Ils vont revenir un petit peu dans la compétition. Mais voilà, moi, j'attends de voir un petit peu ces premières rencontres, ces premiers matchs, voir un petit peu si la mayonnaise a pris sur déjà la préparation physique, si la préparation a été bonne, et notamment sur les matchs amicaux. J'attends de voir un petit peu quelques résultats avant de me prononcer sur le début de saison pour ce début de championnat de Ligue 1. Mais en tout cas, j'attends fermement cette belle rencontre entre Saint-Etienne et Marseille. Ça va être une belle affiche pour les Marseillais. Maintenant, attendons de voir un petit peu aussi les nouveaux visages. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont faire leur entrée, qui ont signé professionnel et qui ont eu la confiance de leur coach respectif du côté de la Ligue 1. Et notamment aussi quelques jeunes internationaux africains de par les espoirs. Donc ça va être très intéressant. Je pense que ça va être un début de saison à suivre de très près.
Est-ce que on a l'habitude de dire que bon, les joueurs africains ne sont pas très 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 chers, doyen Uli. Ils sont sous-cotés. Ouais. Est-ce qu'on pense que ce recrutement va surtout être basé sur les joueurs qui sont... Parce que j'en ai vu des joueurs qui sont passés... et qui viennent d'Afrique, qui viennent des centres de formation, de Metz, etc., qui ont signé leur contrat. Et la plupart du temps, et je crois que Christian Changou, pour la semaine prochaine, devrait faire le point sur le raz-de-marée des Africains au niveau des clubs professionnels, pour qu'on sache que quand même, sur la plupart des joueurs, c'est beaucoup de joueurs africains qui bougent, qui sont recrutés. Est-ce que c'est parce qu'ils sont sous-cotés ou bien Parce que c'est rare, à part Naples qui essayait de vendre son joueur qui ne veut plus y aller, ou bien des Sadio Mané, mais c'est surtout au niveau des joueurs africains et du Maghreb où il y a beaucoup de mouvements.
Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'au début, c'est des joueurs qu'on voit à travers leurs prestations. On a vu Mané, Salah, Koulibaly et autres. On a même vu au niveau de Bruges, par exemple, en Champions League, on a vu des joueurs africains que personne ne connaissait, mais qu'on a vu leur valeur
sur le terrain. Parce que là, on parle d'Osimhen et tout ça, tous ces gars-là.
Je parle des valeurs au niveau du... sur le terrain. Mm-hmm. Mais pourquoi on les cherche aussi? Parce qu'ils sont sous-cotés. Donc, les gens, ils sont bons, comme Osimhen, et ils ne coûtent pas cher. Donc, du coup, ça intéresse les joueurs. Et en plus, vers la fin, on peut faire des plus-values intéressantes. Mm-hmm. Donc, le joueur africain donne sur le terrain et il n'est pas cher et il peut être revendu à 10 fois son prix. Donc, il devient intéressant économiquement.
Ou bien il va sportivement. À Botafogo.
Et sportivement. Même Botafogo cherche des Africains.
Exactement.
Il m'en demande. Ouais.
Exactement.
Mais après, tu as raison, coach. Hein. On l'a vu, par exemple, il y avait Lens qui voulait acheter l'attaquant du Mazembe. Et l'offre a été refusée par le Mazembe puisque c'était une offre dérisoire. Il proposait
un manque de respect.
Il proposait 300 000 euros avec quelques primes en plus sur le contrat. Mais c'est un manque de respect pour le club, pour la valeur du joueur. Parce que ce joueur-là, s'il était en France juste en Europe, sa valeur serait tout autre. Mais là, on enfonce des portes ouvertes. Hein. Ça, on le sait très bien, malheureusement. Mais quand j'avais vu passer cette offre de Lens, je me suis dit, si jamais l'offre est acceptée, ce qui n'a bien sûr pas été le cas, ça aurait été un coup de poker pour eux magnifique.
Je crois que c'est parce qu'ils ne connaissaient pas le président.
Mais ils viennent prendre un des meilleurs joueurs du continent, dans la meilleure équipe du continent, pour moins d'1 million d'euros. Vous vous rendez compte quand même la représentation qu'ont les clubs de ce joueur. Parce que Willy a totalement raison. Le joueur, ils vont l'acheter moins d'1 million d'euros.
Ouais.
Il va briller, ils vont le revendre au quintuple, ils vont le revendre 10, 15, exactement. 20, 30.
Et peut-être que Salim va nous éclairer là-dessus. Salim, bonsoir.
Salut à tous, salut à toutes les auditeurs.
Salim.
Je prends beaucoup de plaisir à vous écouter et j'aime la façon avec laquelle vous défendez les footballeurs africains. Ça me fait vraiment
comme d'habitude.
Exactement, c'est pour ça, coach, c'est pour ça. Ça me fait beaucoup plaisir. Ouais, concernant le sujet là actuel, il y a Samata, l'avant-centre tanzanien de anciennement TP Mazembe, qui joue à Genk, qui a été l'un des meilleurs buteurs de la phase de poule avec des champions et qui est parti pour, je crois, 12 millions d'euros. C'était Aston Villa qui l'avait pris.
Exactement, tout à fait, Salim, c'est ça.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'est scandaleux parce que quand tu vois...
Alors que De Bruyne qui sont...
Non, laissons De Bruyne.
Non, c'est pas question de Bruno ou autre, c'est pas ça la coach, c'est que regarde, imagine-toi, tu as un joueur qui est un des meilleurs buteurs des phases de poule, il part pour une bouchée de pain, c'est normal, mais vous avez évoqué tout à l'heure Osimhen, franchement Osimhen, j'espère je sais pas s'il va aller à Naples ou pas, ou s'il va rester, je sais pas, mais il s'agit là d'un des meilleurs attaquants au monde, il faut le dire, c'est un des meilleurs neufs au monde, ce mec-là, Osimhen, il sait tout faire. Ce gars-là aurait eu même sa place dans le grand Nigeria de 94. Il faut savoir de qui on parle actuellement. C'est un attaquant hyper complet, un neuf pur et dur.
C'est pour ça qu'ils veulent mettre 60 ou 70 dessus. Hein. Et Lille, ils ont raison. C'est sa valeur.
Je sais pas combien ils vont mettre. Mais ce que je tiens à dire, juste une chose, c'est qu'on a là un avant-centre exceptionnel. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à lui. Je sais pas le choix qu'il va faire. J'espère que ce sera le bon choix.
Tu penses qu'il devrait faire quoi, partir ou rester?
Franchement, peut-être partir, parce qu'à Naples quand même, Naples quand ils jouent la Ligue des Champions, en général, ils vont en huitième de finale, en général. Ouais. Alors que Lille, ils sont bons, mais ils ratent des occasions, ils sont pas expérimentés dans la compétition. Mais Osimhen, c'est exceptionnel. Moi, quand je vois ce joueur-là, il fait rêver. Hein. Franchement,
et sa marge de progression, pour parler d'Osimhen, sa marge de progression, elle est énorme. Il a 21 ans, il a déjà marché sur la Ligue 1, on l'a vu à la CAN. Sa marge de progression, elle est énorme. Lui, si tout se passe bien pour lui, il peut finir tout en haut dans le panel de nos meilleurs attaquants africains.
Du monde aussi. Hein. Vraiment, sincèrement, c'est quelque chose de... C'est un très, 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 très grand joueur. Et concernant donc les transferts, ouais, la conjoncture actuelle, la situation actuelle, ça va être un peu compliqué. Mais l'offre dérisoire du Racing Club de Lens, c'était combien pour le TP Mazembe?
C'était 300 000 euros. C'était pas plus d'un million, c'était 300 ou 500 000, j'avais vu passer. Et j'avais rigolé. Non, mais c'était une honte.
No comment, franchement, no comment. Hein, je préfère ne rien dire.
Ouais, que... mais tu veux dire quoi?
Franchement, je
crois que ça, ce sont des informations qu'il faudrait voir pour la semaine prochaine. Ouais, éventuellement, on doit. Parce que je vous assure, peut-être qu'on sera là la semaine prochaine, mais peut-être aussi on sera en vacances. Il faudra qu'on voit avec le directeur. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un dossier à regarder. Je peux vous dire que de toutes les informations que j'ai à travers la semaine, c'est beaucoup de joueurs africains qui bougent, qui vont par-ci, par-là.
Oui, même côté de la Tunisie, il y a du mouvement.
Oui, mais partout. Même l'attaquant de Bruges, là, il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont en Europe, même du côté de l'Europe de l'Est, que beaucoup de clubs veulent.
On a également Sané qui a commencé du côté de l'Allemagne.
Ah oui, mais Sané, c'est autre chose. Hein.
Oui. Du côté du Bayern.
Oui, Sané, c'est autre chose. C'est pas de la gnognotte.
Ah non. C'est du haut niveau. Ça.
C'est du haut niveau.
C'est un joueur confirmé.
Vous avez bien vu que les Allemands l'ont payé cash quand ils l'ont mis à la maison.
Ça, c'est clair et net. Oui, alors, autre chose, Salim. Parce qu'il nous reste 3 minutes. On vous laisse la parole. Hein.
Oui, la dernière info. Non, franchement, la dernière info, c'est sur Youssef Belaïli, qui intéresserait peut-être les Verts de Saint-Etienne. Apparemment, ils veulent rapatrier. Enfin, ils veulent rapatrier. Ils veulent, parce que oui, il était à Angers avant. Donc, rapatrier en France, faire revenir Belaïli, qui était qui est du côté de l'Arabie Saoudite et qui était à l'Espérance internationale algérien, qui a fait une très grande CAN. J'espère qu'il va aller chez les Verts. Ça serait sympathique. Lui et Kazri, ça serait pas mal. Hein.
Ça ferait une belle paire de joueurs ensemble. Ouais.
Moi, pour aller dans le sens de Salim, j'espère qu'il va revenir en France, mais pas du côté de Saint-Etienne. J'ai envie qu'il vise plus haut. Il a le talent pour viser encore plus haut un top 4 du championnat de France. Lille, Lyon,
à l'OM.
Marseille. Ouais. Il a totalement le profil pour ces clubs-là. Même si c'est vrai, je ne veux pas faire offense à Saint-Etienne. Hein. C'est une grande équipe. Hein. Mais il a vraiment le potentiel pour aller encore plus haut.
Mm-hmm.
Ouais.
C'est vrai.
On est d'accord.
Messieurs, il nous reste 2 minutes. Un dernier tour de table. Doyen Willy, rapidement.
Ouais, moi je vous propose que le Real soit la champion d'Espagne.
Bon, ça c'est vrai. Hakim.
On fait un coucou à tous les auditeurs qui nous ont écoutés de près ou de loin du côté du continent africain en France. Un coucou à Salim Layouni qui nous écoute régulièrement.
Mais Salim, il est là avec vous.
Toujours un plaisir de l'entendre. Un coucou aussi à Christian qui était à mes côtés ce soir. Et à vous, coach Lamine, et à Woody Dorconou et à Valentin Larreal. En tout cas, un plaisir d'avoir encore partagé ce moment de football, Christian, avec vous.
Coach, bonsoir à tous, hein, à tous les auditeurs. Et juste un coucou à Serge Akakpo, notre ami qui a participé avec nous, notamment du côté de la CAN, qui a fait ses premières armes
en commentaire
côté avec nous. Et voilà, je voulais lui souhaiter force et honneur et bonne chance pour la suite de ses aventures footballistiques, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je sais que là, je te suis, Serge. Je crois que tu es en train de commenter un match du championnat de Turquie. Donc,
dehors, il est bon aussi en dehors.
Ah, il est très bon en dehors. Donc voilà,
Salim, rapidement, alors en dernier.
Oui, merci à vous tous.
Mais on vous attend au studio aussi. Hein.
Alors, soit je suis au studio, soit je participe, j'appelle, ou soit je vous écoute.
Par téléphone.
Avec le même plaisir. Et ça fait des années. Même à t'écouter, coach, moi, ça me suffit. Hein.
C'est gentil.
Merci.
C'est gentil. En tout cas, Valentin, merci beaucoup. Merci d'être venu.
Merci, Valentin.
Faire cette belle réalisation. Et puis, on se retrouve très, très certainement, hein, et on l'espère, dès lundi prochain.
Ouais.
Ciao.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.